French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode a reçu le soutien d'Agora Expat. Vivre aux États-Unis nécessite une assurance santé adaptée. Mais trouver la solution parmi toutes les offres peut s'avérer être un vrai casse-tête. Budget, besoins, franchise, difficile de tout combiner. Ne perdez plus votre temps, Agora Expat sélectionne et compare pour vous les meilleures solutions d'assurance santé. Offres personnalisées, accompagnement sur mesure, devis et conseils gratuits, Agora Expat est le courtier référent de la communauté francophone expatriée aux États-Unis. Retrouvez plus d'informations sur agoraexpat.com. Et maintenant, place à l'épisode.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce tout nouvel épisode de French Expat, le podcast, épisode très spécial puisqu'il s'agit du tout dernier épisode de la saison 1, une saison entière qui s'est déjà écoulée depuis ce fameux 7 octobre 2019, date à laquelle nous publions l'épisode pilote d'introduction et la toute première interview, celle de Laura. Et aujourd'hui nous enregistrons déjà le 52e épisode, quelques 9 mois plus tard, 52 épisodes comme 52 semaines en seulement 9 mois, c'est absolument hallucinant. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous proposer un épisode extraordinaire puisque je ne vais pas interviewer un ou une expatriée comme d'habitude, mais je vais plutôt partager mon micro avec la Dream Team de French Expat, le podcast, les drôles de dames du podcast qui vous fait le plus voyager dans le monde. J'ai bien entendu nommé Manon, Charlotte et Caroline. Salut les filles.
Salut.
Salut.
Coucou. Comment ça va?
Ça va et toi?
Bah, moi ça va plutôt pas mal, l'heure du bilan.
C'est ça.
Le bilan.
D'où est-ce que vous nous parlez toutes les trois ce soir? Donc, on est toutes aux États-Unis.
Ah ben, moi, je vous parle de Berkeley en Californie. Il fait vachement chaud et voilà, ça se passe bien. On est toujours confinés. Voilà, voilà.
Ok. Manon.
Oui, ben moi, je vous parle depuis Houston au Texas. Et il fait aussi très, très chaud.
Je pense qu'il fait plus chaud chez toi que chez moi, d'ailleurs.
C'est quoi chaud, ouais, quand dans vos régions?
Chez moi, c'est 23.
Ah, 23, ça va. Ouais. Tu viens du Nord.
C'est ça.
31, ressenti 32.
Nous, bah écoute, dans la Bay Area, t'as du brouillard et tu t'as froid à plein de moments. Et puis, bah, nous, on est à Berkeley, on n'est pas loin de SF. Et du coup, bah, on a des températures généralement entre 15 et 25 degrés toute l'année.
C'est
Allez,
sympa.
10 et 25.
C'est sympa.
Du coup, 27, t'as des alertes canicules, quoi.
Ouais, Charlotte et moi qui sommes sur la côte Est, je peux te dire qu'en hiver, ton hiver, il a l'air de faire un peu rêver. Alors Charlotte, justement, donc avant qu'on appuie sur le bouton enregistrer, tu galérais un peu avec ton ventilateur et tu as l'air de perdre 10 litres d'eau à l'heure. Comment ça va?
Ça va. À New York, ça se passe bien.
Il fait chaud aussi, on dirait.
Voilà, toujours. Il fait toujours chaud. Enfin, il fait toujours chaud. Il fait chaud depuis quelques temps. Et tout se passe bien.
Alors, vous le savez peut-être si vous suivez le podcast depuis le tout début, donc ce fameux début d'octobre 2019, j'avais lancé un appel aux motivés ou aux volontaires qui seraient intéressés pour participer à ce projet de podcast l'été dernier. Et une copine, Laetitia, avait répondu présent. C'est donc elle qui avait lancé cette aventure avec moi. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle a dû quitter le navire. Mais entre-temps, l'équipe s'était donc bien agrandie puisque Charlotte et Manon nous avaient déjà rejointes. Puis, quelques mois plus tard, c'est Caroline qui a intégré la fameuse Dream Team que je vous présentais il y a quelques minutes. D'ailleurs, je crois que c'est Manon, toi, qui est arrivée la toute première dans l'équipe. Tu te souviens d'ailleurs de comment est-ce que tu avais découvert le projet?
Ouais, ben en fait, je me souviens de quand tu avais fait l'appel... J'allais dire l'appel à témoin, pas vraiment, mais quand t'avais parlé sur Instagram de ton projet de créer des podcasts. Et en fait, tout de suite après, Laetitia m'a contactée pour faire un des premiers épisodes. C'était l'épisode 3.
Ouais, c'est vrai, un des tout premiers. Ouais.
Ouais, c'est ça. Et en fait, ensuite, je connaissais déjà Laetitia et je te connaissais déjà aussi donc via les réseaux et Laetitia notamment via Français aux USA qu'on co-manage. Et en fait, je crois vraiment quelques jours après avoir enregistré ou quelques jours après la diffusion de mon épisode, elle m'a contactée. Elle m'a dit que le podcast venait d'être lancé et marchait du tonnerre et qu'elle avait besoin d'agrandir l'équipe, quoi. Et j'étais tout de suite on board, quoi.
Ah, trop bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet? Tu te souviens?
En fait, j'ai beaucoup aimé le fait de raconter des histoires d'expats. En tant qu'expatrié, je pense que une chose où Français aux USA et Instagram m'ont beaucoup aidé, c'est à me faire un peu des amis qui partageaient un petit peu mon histoire, quoi. Et pourtant, j'étais la première à dire attention, moi, si je pars à l'étranger, c'est pas pour rester avec des Français. Mais au final, quand t'arrives quelque part et que tu connais personne, bah, ça fait toujours plaisir de pouvoir un peu rencontrer des gens qui parlent ta langue, qui comprennent un peu ton choix culturel, etc. Et du coup, bah, ouais, le projet m'a tout de suite emballée, quoi.
Est-ce que t'écoutais des podcasts à l'époque ou est-ce que c'était un média finalement assez nouveau pour toi?
Ah, pas du tout. J'écoutais pas du tout de podcast.
Oh, je suis trop fière. Donc, c'était le premier podcast que t'as écouté, quoi.
Le premier podcast trop que bien. J'ai écouté. Et bah oui, le premier podcast que j'ai écouté, c'était l'épisode 1 où vous vous présentiez, ensuite celui de Laura, et puis...
Après, c'était toi.
Un peu bizarre.
Je me souviens qu'effectivement, on avait échangé, puis nous-mêmes, en fait, on n'en revenait pas vraiment du succès du podcast. Au début, on s'attendait vraiment pas à avoir autant d'écoute. Et je me souviens que je t'avais envoyé un message en te disant, je sais plus pourquoi je t'avais dit ça, mais donc on avait, je sais plus... 5000 écoutes en 10 jours sur ton épisode. Je me souviens que tu avais été mais complètement choquée, quoi. T'étais
ah,
ouais. Il y a 5000 personnes qui ont écouté mon histoire.
C'est là où en fait j'ai commencé à pas avoir des regrets, mais à me dire oh mince, mais qu'est-ce que j'ai raconté?
J'aurais pas dû tout dire.
Je me suis dit oh là là, faut que je réécoute là et être sûre que j'ai pas dit n'importe quoi. Enfin voilà quoi, je me suis dit oh là là, qu'est-ce que j'ai pu raconter? Faut que je fasse gaffe. En fait, il y a tellement de gens qui ont écouté ça.
Ça s'est plutôt bien passé, je pense, hein, quand même. Voilà. Et alors, est-ce que tu peux rappeler peut-être pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être ceux qui ne nous suivent pas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu fais dans le podcast au sein de l'équipe du podcast?
Ouais, alors moi, je m'occupe des réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook, LinkedIn et Mapster, où on partage les bonnes adresses de nos invités. Et puis, je m'occupe aussi de la newsletter et du blog. Je crois que c'est tout.
Ouais, c'est déjà pas mal, hein.
C'est pas mal.
T'as l'air déjà bien occupée avec un boulot à temps plein. Non, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Super, merci beaucoup, Manon. Et alors donc, je crois que c'est quelques semaines plus tard. Enfin, hein, vous êtes arrivées toutes les deux dans l'équipe à peu près au même moment. Charlotte nous a rejointes. Tu te souviens, toi, Charlotte, de comment toi t'as découvert le podcast?
Bah, pareil que Manon. J'avais vu ton appel à ta candidature à témoin sur les réseaux. Et puis, je me suis dit, ah, c'est génial.
Appel à bonnes idées, quoi.
Appel à bonnes idées, on peut dire ça comme ça. Et je m'étais dit, c'est vrai, ah, c'est génial, c'est un projet qui a l'air top. Ça doit être génial de faire partie d'une team comme ça. Puis, j'ai pas osé répondre parce que je suis un peu timide, que j'aime pas trop me lancer. Petit confort tranquille. Et puis, je crois que c'est ça, on partait en week-end dans les Catskills et on a commencé à écouter dans la voiture les épisodes, le 1, le 2, le 3, il y avait déjà, celui de maintenant était déjà sorti, donc au moins les 4 premiers épisodes et puis c'était génial quoi. Et peut-être quelques jours plus tard, quelques semaines, je sais plus, vous m'avez contacté avec Laetitia en me proposant du coup d'intégrer l'équipe pour gérer les emplois du temps, contacter les invités, répondre aux mails, etc. Et ouais, je me suis dit ouais, pourquoi pas, c'est génial, j'en fais partie, allez, je me lance.
Ouais,
et puis vous m'avez dit allez, faut que tu fasses un épisode, faut que tu racontes ton histoire. Et ce que je n'ai toujours pas fait parce que je ne veux pas pour le moment.
On n'arrive pas à la convaincre. Hein. Si vous avez des arguments, envoyez-les nous. Hein.
Parce que... Mais non. Mais par contre, je me suis prise au jeu de.
Mais c'est ouais, ça. À Noël, en fait, on avait fait un épisode de Noël un peu de fin
hors
de...
série, ouais.
D'ailleurs, et du coup, le dernier épisode de Laetitia, parce qu'elle nous a quittés quelques semaines ou quelques jours après. Mm. Et en fait, ce que tu disais, quoi, c'est que donc dans cet épisode, on était toutes les quatre au micro, un peu la même manière qu'aujourd'hui. C'est là, tu t'es prise au jeu, quoi. Là, tu t'es dit, non, mais attends, mais moi, j'aimerais bien, en fait.
Ouais, complètement.
Et poser des questions. Et enfin, c'est là que t'as eu un peu une petite révélation, non?
Ouais, ah ouais, ça a été ça. Et puis, bah, avec d'ailleurs, le premier épisode que j'ai enregistré, ça a été ta sœur.
Ah, c'est vrai?
Victoire. Ouais, c'était la première que j'ai enregistrée. Donc, un peu de stress, le challenge, quoi. Et en fait, c'était génial et j'ai adoré et j'adore du coup enregistrer nos invités et partager un moment de leur histoire qu'on partage après sur toutes les plateformes d'écoute.
Ouais, franchement, j'adore en plus la manière que tu as de mener les interviews. Je pense qu'on a un style très différent et c'est hyper agréable en fait de contraster. Je pense nos approches, on cherche pas forcément la même chose et c'est normal quoi. On n'a pas la même.
Ouais.
Et j'aime beaucoup écouter les épisodes que tu fais et Manon aussi. D'ailleurs, ça m'a pas fait autant.
C'est vrai que Manon, elle en fait aussi. C'est chouette. Exactement. Manque plus que Caroline.
Ouais. On essaie de motiver. Et toi alors, Caroline, raconte un peu comment est-ce que tu as découvert le podcast. Est-ce que tu t'en souviens?
Bah en fait, moi, je vous suivais déjà toutes. Je vous suivais déjà toutes sur Instagram, etc. J'échange toujours avec vous toutes. Niveau perso, du coup, j'ai vu passer ton appel à candidature et je me suis dit, moi, c'était encore pire. C'était moi, j'ai pas le temps. J'aimerais bien, ça a l'air génial, mais oh là là, il faudrait que j'arrête de dormir. Déjà, je dors pas beaucoup.
C'est ce que j'ai fait.
Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, enfin, vraiment super cool le projet et tout ça. Et puis j'ai suivi, j'ai écouté les premiers épisodes, d'ailleurs mon premier podcast aussi, parce que j'écoutais pas de podcast avant. Et donc voilà. Non,
c'est marrant ça en fait, hein. Je crois que de toutes les quatre, en fait, toutes les trois, vous écoutiez pas vraiment de podcast avant, mais c'est un truc qui vous a parlé quand même, enfin, comme média. C'est, je sais pas l'expliquer, mais je trouve ça assez intéressant.
Notre quoi? Notre gourou de podcast? Non, notre initiatrice de podcast, j'en sais rien.
Moi, je préfère le mot gourou, là, pour le coup.
Ok. Oui, initiatrice, ça fait un peu bizarre.
Influenceuse podcast.
Ah, bah oui, au moins.
C'est ça.
Et effectivement, donc ouais, on se parlait régulièrement sur Instagram. Et Caroline, tu me rappelles beaucoup ma grande sœur, d'ailleurs, là-dessus. Tu arrives avec ton tact légendaire. Tu vois qu'elle n'ose pas trop. Elle me dit, bon... Écoute, Anne-Fleur, c'est quand même dommage parce que t'as qu'une seule opportunité pour faire vraiment bonne impression et t'as des notes de podcast, il y a quand même des fautes de frappe, des fois des fautes d'orthographe. Tu veux que je les relise?
Mais c'est trop drôle, je pense qu'elle l'a toute fait sur Instagram, mais moi, elle m'a déjà écrit pour me dire que dans mes captions, enfin dans mes légendes de photos, elle m'a déjà souligné des fautes.
J'ai vraiment un toc, hein. J'ai vraiment un toc.
Ah, mais non, mais en même temps, tu sais quoi, je veux dire, si tu vois les fautes, moi, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je suis complètement d'accord avec toi, qu'on a effectivement qu'une chance de faire une bonne première impression, donc, à fond. Et donc, du coup, en fait, quand elle m'a proposé de relire quelques trucs, ben, moi, j'ai un peu saisi l'opportunité et je l'ai intégré non pas à un, mais à deux podcasts. En tant que, du coup, copie-éditeur. Et donc, elle nous fait plein de choses et notamment donc relire et vraiment le job d'éditeur quoi, c'est des fois reformuler pour que la grammaire soit bonne, etc. C'est ça, Caroline?
C'est ça, et les accents aussi, parce qu'on travaille toutes sur des claviers QWERTY ou presque, je sais pas, du coup j'ai beaucoup de problèmes dans ma tête.
Non, mais t'as raison, mais c'est vrai que moi je t'avouerais que j'essaye même plus de les mettre les accents parce que je sais que tu vas les relire après,
donc, ok.
Je suis très sincère. Et puis, il y a eu un soir, je crois que c'était le soir des Oscars, qu'on s'est décidé à faire ton interview, Caroline. Il devait être, je sais pas, 11h pour moi ici. Est-ce que tu te souviens un peu de cette première interview et comment est-ce que tu te sentais à l'idée de raconter ton histoire? Parce que toi, en plus, on parle de French expat, mais tu es belge.
Ouais, French speaking expat, il faudrait renommer le truc.
Ouais, c'est un peu moins sexy, mais ouais.
Je te l'accorde. Moi, ben en fait, à la base, j'ai fait des études de journaliste. Du coup, j'ai plutôt l'habitude d'être à ta place qu'à la mienne. Donc, c'était un peu bizarre. Et en plus, j'avais un autre problème. C'était que j'étais en train de me dire, mais non, oublie pas que t'enregistres. Je sais que t'es copine avec elle, mais oublie pas de mettre un filtre. Je me rappelle t'avoir dit, est-ce que tu pourras couper ça, s'il te plaît?
Je me souviens, on a raccroché. Et là, mais je crois d'ailleurs que je vous l'avais dit, les filles. Je t'avais dit, super épisode, très long épisode, mais j'ai une liste longue comme mon bras de trucs que Caroline m'a demandé d'enlever.
C'est vrai.
Enfin, un peu comme Manon avec ses 5000 écoutes et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Ben, moi, c'était avant que ça soit sorti, c'était... Oh là là, j'ai dit ça. Et puis alors, t'as mon mari qui me disait non, mais tu peux pas dire ça, tu vois.
Bon, voilà. En tout cas, ça va. On a pu censurer ce qu'il fallait censurer.
Eh ben, écoute, il était toujours long, donc j'ai envie de dire que ça allait.
Après le témoignage, plus personne voudrait être invité. Ils vont se dire, oh là là, tout le monde a des regrets.
Bah non, justement.
Il fallait que je passe après ça. On enlève tout. On enlève tout ce qu'on me demande d'enlever, hein, pour le coup.
Exactement, il y a rien.
Même si je ronchonne, je le fais.
Mais moi, j'ai pas été capable de me réécouter. Je suis.
C'est un exercice d'ailleurs. Je sais pas vous les filles. Enfin, moi, je sais que c'est un truc qui est même depuis mes tout débuts à la radio. C'est hyper dur, je trouve, de s'écouter, d'écouter sa voix.
C'est horrible. Enfin,
vous arrivez.
Moi,
je
déteste. Ah non, quand on fait le montage de nos épisodes, je sais pas pour toi Anne Fleur et Manon, c'est Anne Fleur qui t'a fait tes épisodes, mais qui t'a monté les épisodes. Mais quand je fais les montages, c'est un peu bizarre, un peu angoissant de faire d'entendre sa voix, de se réécouter. Et une fois qu'il est fini d'être monté, j'arrive pas à me réécouter. Heureusement que du coup Manon, Caro et toi Anne Fleur, vous êtes là pour réécouter ensuite et dire s'il y a des erreurs. Et on sait qu'il y a beaucoup d'erreurs. Des fois, il y a des épisodes que j'ai dû remonter 3-4 fois parce que j'avais oublié des trucs, que ça buguait. Mais c'est horrible de me j'arrive pas à me réécouter. J'aime pas ça.
Ouais, c'est pas facile. Hein. Moi, maintenant, ça me pose moins de problèmes. Mais au début, c'était même physique, quoi. À quel point ça me crispait, quoi, d'entendre.
Non, mais t'entends tous tes tics verbaux et t'entends tous les.
Alors, je suis devenue, moi, personnellement, complètement hermétique au E, et je me rends compte, en fait, que si mes interviews sont pas trop scriptées, j'ai tendance à combler beaucoup par le E. Et alors, les gens qui écoutent depuis le début, au début, je les éditais pas autant. Maintenant, je coupe à fond, mais je peux enlever quasiment des fois 10 minutes de E. Bon, j'exagère. Mais, sur mes épisodes, parce que je pense qu'en plus, on est chacun notre pire juge, de ce qu'on dit. Sans transition, les filles, on a préparé pour cet épisode exceptionnel, n'ayons pas peur des mots, des moments qui nous ont chacune marqués. Alors, on dit best-of, je sais pas si je suis vraiment convaincue avec le mot best-of, parce que ça voudrait dire qu'il y a des épisodes qui ont été meilleurs que d'autres, et honnêtement, je pense qu'on a que des super épisodes. On a chacune choisi, en fait, trois extraits, trois moments dans le podcast qui nous ont vraiment marqués, et on va chacune expliquer pourquoi. Des moments qui nous ont, surprise, fait rire, pleurer, inspirer, et donc on aimerait revivre avec vous, et ça va être l'occasion, voilà, de se replonger dans d'anciens épisodes. Charlotte, je crois que tu avais fait une petite sélection exclusivement féminine d'ailleurs, et pour commencer, tu nous amènes au pays de Manon, dans l'épisode 17, au Texas, à la rencontre de Sabrina. On écoute.
Alors, imagine bien que quand Nicolas m'a dit « Pourquoi pas Austin, Texas ?», j'ai la même réaction, je pense, que n'importe qui quand on dit « Texas ». C'est que je me suis dit « Oh là là, ça va pas être possible. Les pro-Trump en boot. »
Ouais, moi, je m'imagine tout le monde qui porte son flingue en ceinture. Je tombe dans le cliché, quoi.
Tu tombes dans le cliché, tu te dis « Mais là-bas, il doit y avoir que des rednecks, des vaches, enfin… Ouais. » C'est quand même. Je me suis dit, franchement, ça vend pas du rêve. Et du coup, on s'est dit, allez, faut pas être bête, on va voir. On part. Donc ça, c'était en février 2016. On s'est dit, on va voir à quoi ça ressemble. On est parti en repérage pour voir si on avait un feeling avec la ville, parce que la Californie, on connaissait déjà très bien. Voilà, se posait le compromis du niveau de vie, et en Californie, c'était pas possible. Austin étant plus abordable, on s'est dit, on va voir. Donc, nous voilà tous les deux, sans les enfants, en repérage pour voir la ville et puis pour voir comment se passe la prise en charge des enfants porteurs d'autisme là-bas. Quand on a atterri et que j'ai vu la ville, je me suis dit, en fait, c'est pas du tout ce que j'imaginais. Il n'y avait pas de vaches, il n'y avait pas de cow-boys, il n'y avait pas d'armes à la ceinture.
Ok, donc là, Charlotte, pourquoi est-ce que tu as choisi ce passage? Qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué ici?
Tout d'abord, l'histoire familiale de Sabrina, je pense, nous a tous touchés, et son épisode en général nous a touchés. Et
vous nous rappeler en quelques mots pour ceux qui n'ont pas écouté cet épisode.
Sabrina donc venait d'un village pas loin de la frontière suisse. Dans le Jura, il me semble. Et donc, elle est maman de trois enfants, Valentin, son aîné, Paul et Victoria, sa petite dernière. Et son fils aîné est atteint d'autisme, il me semble, de troubles autistiques. Et donc, on sait qu'en France, c'est assez compliqué d'inclure ses enfants à l'école. J'en sais quelque chose en étant ma professeure des écoles. Je sais que c'est très, très compliqué. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens, alors qu'aux États-Unis, c'est bien plus... Les enfants sont mieux pris en charge, sont bien pris en charge, et donc voilà, ils ont fait le choix. Ça a été une décision assez difficile pour eux, je crois, hein, de partir. Ouais. Ils ont fait le choix de venir au Texas pour aider et pour élever au mieux, donner toutes les possibilités à leur fils.
Ouais, comme tu dis, je crois que l'éducation ici a beaucoup plus de moyens et semble aussi beaucoup plus inclusive
Tout à fait.
Pour tous les enfants, en fait. Hein.
Okay. Quelle que soit leur différence, et c'est génial, je trouve. Et donc, du coup, ce passage, bah, parce que quand on me dit Texas, voilà, c'est l'image que j'en avais. Je vois Manon sur la vidéo qui fait des rimeuses depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que on s'imagine, enfin, moi, je m'imagine le Texas, voilà, comme dans les films, quoi. Walker Texas Rangers, cowboy, gun à la ceinture, les bottes, les éperons, les vaches partout, et puis voilà, quoi. Et en fait, grâce à Sabrina, grâce à Manon, à ce qu'elles nous montrent de leur vie au Texas, Houston, Austin, on se rend compte que c'est pas que ça, que des super villes qui donnent envie, en fait, qu'on a envie de découvrir, et que c'est pas que pro-Trump, gun et cow-boy, en fait.
C'est clair, t'as quelque chose à rajouter, Manon, là-dessus, pour réagir?
Non, ben bah, oui, je suis d'accord avec elle, et c'est vrai que même moi, avant de partir vivre à Houston, j'ai épousé un Texan, donc bon, je savais qu'ils étaient pas tous comme ça non plus, parce qu'il a même pas de chapeau de cow-boy, le mien. Donc oui, moi aussi, j'avais quand même des préjugés sur le Texas, et au final, c'est qu'en déménageant ici que je me suis rendu compte que, bah, en fait, c'est une vision incomplète qu'on a, et puis beaucoup dans les films. Et en plus, je pense qu'on confond souvent Texas et Arizona, parce que moi, on me parle souvent de désert, de décors désertiques au Texas, et personnellement, je les ai pas encore vus. Ici, c'est un peu la forêt tropicale.
En tout cas, c'est ça, en fait. Sabrina et Manon, vous cassez en fait les clichés qu'on peut avoir sur le Texas. Malgré les photos que tu postes des fois dans des ranchs, je ne sais pas où, avec les vaches à longue corne, comme quoi.
Et des rodéos.
Ouais, il y a quand même quelques petits trucs un peu traditionnels, mais c'est vrai que c'est chouette. Et je pense que pour ça, même le podcast en général, en fait, ça nous permet un peu de revoir nos clichés sur toutes les destinations qu'on a eu la chance d'avoir dans le podcast. Et j'espère encore plein d'autres. Mais ouais, on pense en fait parfois connaître des coins dans lesquels on n'est jamais allé. Et en le disant, ça paraît évident qu'en fait on les connaît pas ces coins. Mais les clichés, on a envie de dire quand même. Hein. Donc c'est important.
Ce qui est bien, c'est que tu vois, l'expat a un regard qui est différent du touriste. Et qui est différent du local. Parce qu'il a un regard extérieur, mais en même temps, il est là depuis longtemps et il vit sur place. Donc, c'est quand même autre chose que le touriste et autre chose le local.
Alors, justement, donc, Manon, toi, un des premiers extraits que tu as choisi, on reste dans le sud, puisque tu as décidé de donner la parole à Johanna, qui est photographe, qui vit au pays de Disney, si mes souvenirs sont bons. Je vous propose d'écouter et on en discute juste après.
Et là, je me suis dit, oh là là, mais j'ai rien fait de ma vie. Bon, j'exagère, hein, mais j'ai rien fait. Et puis, j'avais tellement envie de voyager. Et puis, j'étais dans une relation qui me rendait pas particulièrement heureuse. Donc, du coup, un matin, je me suis levée et j'ai eu le déclic. Et j'ai dit, bon, allez, ça suffit. Il faut que je réalise mes rêves.
Il faut que je réalise mes rêves. C'est fort, ça. Parle-nous un petit peu de pourquoi tu as choisi cet extrait, Manon.
Ah ouais, moi, en fait, l'interview de Johanna, elle m'avait beaucoup marquée, bah, déjà parce que je connaissais pas du tout le parcours Disney, l'expatriation Disney.
Ouais, moi non plus, ouais.
Franchement, je suis persuadée que si je l'avais connue avant d'être ici, je l'aurais fait. En écoutant son épisode, je me suis dit, oh mince, j'aurais dû faire ça.
Excellent.
Parce que, en fait, donc, je suis arrivée aux États-Unis par un visa étudiant en faisant mes études ici, et du coup déjà cet extrait a beaucoup résonné en moi parce que c'était mon rêve de partir un an aux États-Unis, et j'ai toujours été à fond en mode non mais moi je réaliserai mes rêves, je laisserai pas la vie être des bâtons dans les roues, et du coup j'ai beaucoup aimé quel est cet état d'esprit de allez hop, je réalise mon rêve, quoi. À un moment donné, il faut se dire, ok, on s'y met et on le fait, parce que quand on laisse traîner, c'est comme ça que les rêves après restent un peu derrière nous.
Ouais, et puis reste des regrets qu'on traîne toute notre vie. Vous avez eu des déclics comme ça, vous?
Ouais, voilà. Du coup, je me suis bien reconnue parce que j'ai eu ce déclic en décidant d'aller étudier. J'ai dit non, c'est bon, cette fois j'y vais et je vais trouver les moyens.
Comme quoi, il faut se donner les moyens. Et effectivement, des fois, et les déclics, des fois, c'est marrant parce qu'ils viennent à pas grand-chose en fait. Hein. Il se passe un truc. Je pense qu'en fait, enfin, je sais pas, c'est ma théorie à deux balles, hein, de la psychologie de comptoir, mais il y a sûrement une accumulation, tu vois, un peu de facteurs. Et puis un jour, c'est la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase. Du coup, on se dit, mais ce qu'il a fait vriller, c'est pas grand-chose. Mais en fait, bon, il y a quand même tout un historique. Caro et Charlotte, vous avez eu vous des déclics par rapport aux États-Unis ou par rapport à l'expatriation, l'envie de voyager aussi, ou pas du tout?
Moi, j'ai toujours eu envie d'habiter dans un pays anglophone, mais il n'y a pas eu de déclic réel. J'étais allée aux États-Unis quand j'avais 17 ans et je m'étais dit, j'aimerais bien habiter là un jour. Mais tu sais, c'était hyper abstrait. Et j'ai eu un déclic après les quelques années où j'habitais à Lyon. C'était le déclic, c'était je veux aller ailleurs. Et j'aimerais bien un pays anglophone, tu vois. Ouais. Du coup, je sais pas si on peut parler de déclic, parce que ben, c'est comme tu dis, ça s'est fait sur plein de petites choses. Et c'était un peu, il faut que j'aille ailleurs parce que, ouais. Ben, parce que ici, c'est pas adapté pour moi. Mais ouais. Un déclic, ouais, Londres, ça a été un bon déclic. Londres, c'était bien.
Petit message pas très très subtil si Nico nous écoute.
Mais la Californie, c'est magique aussi, donc.
Ouais. Ouais, t'es plutôt pas mal là où t'es. Et toi, Charlotte, en parlant de jolie ville, c'est sympa aussi New York. Est-ce que t'as eu un déclic ou est-ce que c'était une envie on va réussir à l'avoir notre interview, Charlotte, vous allez voir. C'était une envie que tu as cultivée pendant de longues années ou pendant ton enfance ou comment ça s'est passé ton départ?
Pas du tout, en fait. On est parti pour notre voyage de noces aux États-Unis en l'été 2016 et on est revenu en se disant waouh, c'était magique. Un jour, on ira vivre, on vivra une expatriation. En fait, on avait envie de vivre ailleurs. Mm-hmm. Ouais, on voulait vivre ailleurs, mais on savait pas où forcément. Alors après, avec mon métier, c'était pas forcément évident de s'expatrier, et on a eu l'opportunité avec celui de Stéphane. Ça a pas été un déclic en fait, parce que une fois qu'on a eu le comme quoi on allait partir, ça a été plutôt moi j'étais un peu freinée en fait, j'avais
t'as eu un peu peur
ouais. Un peu peur ouais parce que je parle pas bien anglais, parce que c'est encore compliqué presque 2 ans après, parce que en fait je voilà, pas le déclic mais je suis bien où on est et je regrette pas et je me dis heureusement qu'on l'a fait parce que sinon on aurait vécu à côté en ayant toujours l'envie d'eux et sans jamais le faire en fait.
Ouais.
Et comme dit Manon et comme dit Johanna, bah faut vivre ses rêves, faut vivre sa vie, donc faut le faire en fait. Et heureusement qu'on l'a fait finalement.
C'est une très très belle conclusion, ça, ma petite dame.
Une grande citation de Ally McBeal ici, qui prend toute sa place. Et je crois qu'un jour ils disent les choses qui valent vraiment la peine, c'est les choses qui te font peur en fait. Si t'as peur, c'est que
mais
ça vaut le coup.
C'est trop vrai, mais elle a trop raison. Et
tu vois.
Non, mais la philosophe.
Non, c'est et clair. C'est vraiment ça. Si tu flippes, c'est que t'as quelque chose à perdre, en fait. Et du coup, ben.
Et donc à gagner.
Voilà. C'était la minute philosophie. Voilà.
Oh là là. Moi, je dis chin-chin. Super.
Caro philosophe.
Alors, justement, toi, Caroline, tu as décidé de nous faire rêver et de nous parler voyage avec l'épisode de Fanny et de son Bobby. Je me souviens de cette interview. J'avais adoré découvrir leur univers qui est si particulier. Ils sont d'ailleurs actuellement en pleine traversée des US dans leur van. On va écouter l'extrait que tu as choisi.
Après, on a fait des choix. Tu sais, c'est pas toujours les bons par moment, mais ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe le choix qu'on fera, il faudra qu'on l'assume. Et il faudra qu'on vive avec. Et tu vois, Louisville, on s'était dit, moi, je suis arrivée à Louisville avec 4 valises, Anne-Fleur. Je suis arrivée avec toute ma life. On a adopté un chien cette année. Enfin, tu vois, on était là, on y croyait, quoi. On pensait vraiment que c'était la prochaine étape de 3 ans au moins, que peut-être on pourrait évoluer. Enfin, voilà, tout ça, c'était, on était à fond. Mmh. Et puis après, au milieu, là, on s'est dit, bon, bah, en fait, il faut qu'on fasse quelque chose parce que là c'est plus possible et du coup voilà, on sait pas trop de quoi sera fait l'avenir, mais en tout cas ça va bouger, ça c'est sûr.
D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que tu as choisi cet extrait, Caroline?
Alors en fait déjà, ben j'ai adoré l'épisode, j'ai adoré leur histoire.
Tu la connaissais avant ou tu as vraiment découvert une nouvelle personne? Ouais.
J'ai découvert une nouvelle personne, je l'ai découverte via le podcast et maintenant j'adore la suivre et ils ont un blog où ils parlent de l'aménagement de leur van qui est absolument passionnant, tu le lis, t'as envie de te barrer. Et donc voilà, donc ce que j'ai vraiment adoré dans l'extrait en tant que tel, c'est le côté on a pris une décision, on est allé quelque part, on a eu le cran de se dire bah ok, les attentes qu'on avait et la réalité ça colle pas, et du coup ben on part, on bouge parce que on n'est pas figé. J'ai adoré le côté pas figé qu'ils avaient, le côté où ils se sont remis en question, où ils assument leur choix du fait que ben voilà, il y a le gap entre l'idéal que t'as de te dire, ah, machin, je vais aller à Louisville et ça va être toute ma vie, regarde, j'ai mon chien, on va s'installer, on va rester là 12 ans et ça va être trop bien. Et puis de se dire, bah, en fait, on se plaît pas ici, ça nous convient pas, viens, on aménage le van et on se casse.
Ouais, c'est ça qui est dingue, c'est vrai. Et je crois d'ailleurs que de mémoire, ça fait maintenant quelques mois cet épisode, mais ils ont commencé à travailler sur leur van parce que c'était un hobby pour le week-end, quoi. Parce que la vie, c'était pas évident, quoi. Point de vue administration, ils ont eu pas mal d'emmerdes. Et ça a commencé vraiment d'un hobby le week-end de construction. Ils en ont fait un palace, le truc, hein, sur 4 roues, quand même. J'ai trop hâte d'ailleurs parce qu'ils doivent normalement venir faire un tour dans mon driveway à Boston cet été. Mais voilà, donc je vous en parlerai à ce moment-là. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est, ils sont assez impressionnants, quoi. On parlait de déclic il y a deux secondes et maintenant c'est on prend pas racine, quoi. S'il y a un truc qui nous plaît pas, peut-être que c'est une bonne idée de passer à autre chose, quoi.
Et on n'est pas des arbres. Ailleurs.
Ça encore, c'est une grande, grande phrase. Écoute, je pense que je vais peut-être commencer un petit livre des citations de Caroline.
Non, mais c'est vrai. Si t'aimes pas où t'es, tu bouges. T'es pas un arbre, voilà.
Ouais. Non, mais ça paraît évident à dire, mais enfin, c'est pas toujours facile à mettre en œuvre, hein. Surtout
quand tu
par l'immigration, des choses comme ça. C'est pas facile. Hein.
Non, c'est clair. Il faut avoir le courage de prendre la situation et de te dire, bah écoute, ça me convient pas. On change.
Elle se complète bien avec Johanna dans le sens où t'es en mode, bah ok, comme tu dis, on bouge pas, on n'est pas un arbre. Et en plus, bah maintenant, je réalise mon rêve, step by step. De toute façon, ça demandera toujours des steps, mais.
Enfin, me donne les moyens d'y arriver, quoi.
Ouais.
Et du coup, toi, Anne-Fleur, ton extrait, qu'est-ce que c'est? Vends-nous du rêve.
Alors, je ne sais pas si je vais vendre du rêve. J'ai décidé de vous partager un extrait de ma toute première interview. Je vous en parlais en tout début d'épisode. C'était Laura dans mon salon à Boston. Pour ceux qui lisent la newsletter, d'ailleurs, vous savez peut-être pourquoi cet épisode est si précieux pour moi. On écoute l'extrait et on en parle après.
Mais à la fois, pas envie de quitter ma famille, pas envie de quitter mes amis. Je faisais énormément de... presque de crises d'angoisse. Je somatisais beaucoup. J'ai fait de l'eczéma. Enfin, vraiment, un départ très compliqué. Mais tout ça, c'est venu de lui. Voilà. Et d'accord. J'ai décidé de lui faire confiance et de me lancer dans l'aventure et de voir comment ça pourrait évoluer.
Alors, ce qui m'a en fait beaucoup marqué dans cet épisode, et c'est marrant parce qu'on s'est pas du tout concerté hein, pour le choix de nos extraits, mais c'est que elle avait une grande envie de découverte, mais clairement dans sa première expatriation, donc quand ils sont partis la première fois en Californie, le moteur de son expatriation, ça a vraiment été son mari. Mais Laura, faudrait que je lui demande un jour quel signe astrologique elle est. C'est quelqu'un qui reste très, qui veut rester très maître en fait. J'ai l'impression de son avenir. Alors un des grands trucs, c'est on a interviewé quand même maintenant beaucoup d'expatriés. On sait que même si surtout aux États-Unis, l'immigration n'est jamais simple. Le mariage peut quand même simplifier beaucoup de choses dans les parcours pour pouvoir suivre quelqu'un, pour pouvoir retrouver quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'elle a toujours refusé. Et voilà, je trouvais que c'était intéressant en fait de voir un peu cette dichotomie quoi entre ce qu'elle avait envie de faire, de suivre son amoureux pour aller découvrir quelque chose, et ce que son corps en fait lui disait. Ben non, en fait, c'est mort, on n'y va pas. Manon, tu me fais signe, tu dis que toi aussi, t'as eu ça?
Ah oui, moi pareil. Puis en plus, moi, je suis très girl power, donc quand la question s'est posée au bout de 2 ans de relation à distance, de dire bon bah j'essaye de venir aux États-Unis, quoi. La même chose que Laura, hein. J'ai fait de l'eczéma aussi.
C'est vrai?
Et j'ai dit non. Bah moi, je vais me faire sponsoriser. J'ai dit non, je vais pas. Je vais pas me marier.
Il est hors de question que je me marie pour les papiers, quoi.
Exactement. Et en fait, je pense que c'était très psychologique de me dire, je veux pas qu'on dise. Et en plus, on me le dit souvent. Hein, de toute façon, toi, ça va.
Ah, moi aussi, on me le dit tout le temps.
Américain. Ben, faites 2 ans de vivre, enfin 2-3 ans ou plus de vivre loin de la personne que vous aimez, etc. C'est pas si facile. Mais non, ouais, du coup, je me suis beaucoup reconnue parce que j'étais là. Non, moi, je vais me faire sponsoriser. Puis bon, quand pendant un an, t'apply à des travails et que tu comprends qu'en fait, même un master, t'es pas si spécial que ça.
Non, mais c'est ça. En fait, il y a la théorie et la pratique, quoi. Enfin, on a tous envie. Enfin, en tout cas, je sais pas. Mais en tout cas, moi, je partageais aussi peut-être cette envie de réussir à faire tout seul. Puis finalement, après, moi, en tout cas, personnellement, je suis arrivée à la conclusion que t'es pas une tarde d'avoir demandé un coup de main, quoi. Ouais. Et puis finalement, je me dis que 13 ans après, on est toujours ensemble, donc on s'est pas complètement perdu. Mais
moi, je suis arrivée à la conclusion, je me suis dit, mais en fait, je me marie pas pour avoir des papiers, pour avoir la green card, quoi que ce soit. Je me marie pour être avec l'homme que j'aime.
C'est ça, pour passer ta vie avec lui.
Pour être avec lui. Donc au final, c'est encore plus beau, je trouve.
Mais c'est clair, c'est une jolie manière de dire tout ça. Et alors justement, en parlant de départ, donc de comment est-ce qu'on fait pour quitter alors la France ou son plat pays, Caroline. On a fait pas mal d'épisodes sur le sujet, le bilinguisme, comment est-ce qu'on prépare les enfants à leur bien-être, à réussir à les préparer aussi au fait qu'on va parler dans une autre langue. On a eu des épisodes et des témoignages hyper intéressants sur le sujet. Et un épisode qui vous a beaucoup plu et qui semble t'avoir marqué, donc Caroline, c'est celui sur le bilinguisme avec Audren et Lisbeth. Et justement, donc, sur comment aider nos enfants à vivre dans un nouveau monde avec au moins deux langues. Donc, on va écouter.
Déjà, il va falloir que tu acceptes que l'anglais est devenu sa première langue. Ah, et là, que le français, dur, ouais, ah oui, ouais. Au départ, ouais. Et que le français, du coup, est en second, en fait.
Ouais.
Et quand tu comprends ça et quand tu l'acceptes, surtout, du coup, tu laisses passer le français, en fait.
Ouais.
Mais c'est délicat quand même de laisser passer le français.
Du coup, moi, cet épisode-là, en fait, je l'ai trouvé déjà passionnant au point de vue parce que tu partages, t'as Lisbeth donc qui est l'extrait qu'on a écouté, t'as Lisbeth qui partage son expérience avec ses deux enfants, donc je sais plus exactement quel âge elles avaient, mais elles étaient en âge d'aller à l'école. Et du coup, t'avais Audren pour le côté pro, et je trouvais que l'épisode était super intéressant parce que bon, moi j'ai une petite fille qui a 19 mois, et bon bah pour l'instant avec le lockdown on sort plus, donc elle est plus des masses en contact avec l'anglais, mais bon, dans un futur relativement proche, elle va potentiellement aller à la crèche ou des choses comme ça, et du coup, elle va être en fait en contact avec l'anglais. Et c'est vrai que ça m'a particulièrement intéressée, interpellée d'écouter en fait la relation que tu peux avoir avec ta langue maternelle et la langue du pays où tu habites. Et de, je sais pas, je trouvais que l'épisode faisait vraiment réfléchir et t'aider à te projeter parce que ben c'est une chance de grandir avec les deux cultures, c'est une chance de grandir avec les deux langues. Et en fait, t'as pas envie de faire une connerie et de laisser passer ta langue derrière ou ben de retrouver avec un gamin de 15 ans qui te dit ah mais moi le français de toute façon je m'en fous.
Ouais. Non mais c'est vrai et c'est franchement un super compliment que tu peux nous faire, hein, Manon, quand on travaille sur cet épisode. Et Charlotte qui m'avait beaucoup aidée d'ailleurs sur la préparation des questions d'Audren, je me souviens, c'est de dire que ça t'a aidé à réfléchir, ça t'a aidé tout court en fait. C'est franchement un super beau compliment. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions quoi. On a des enfants pas toujours aussi jeunes d'ailleurs, mais qui arrivent et finalement on leur offre deux bagages. Mais qu'est-ce qu'ils en font de ces bagages et comment est-ce qu'on peut les aider à gérer tout ça? Et c'est vrai que bah forcément moi c'est des questions que je me pose un peu plus depuis que je suis devenue maman. Avant ça tient un peu du miracle le fait que je parle anglais d'ailleurs. Donc c'était pas complètement gagné d'avance. Mais moi, perso, tu vois, je trouvais que le lockdown, il m'a vachement aidée. Moi, c'est Félix, mon petit garçon, qui a presque le même âge que ta fille. Il allait dans une crèche, tu veux, anglophone, où on parle anglais et un petit peu espagnol. Il a été gardé avant par une nounou américaine, donc il parlait que anglais. Et ma grande crainte, si tu veux, c'était, ok, est-ce que moi, je suis assez, quoi? Pour, est-ce que, ok, on lui raconte des livres en français, mais enfin, bon, voilà, quoi, je lui parle et je suis... C'est vrai que je suis très bavarde, mais je ne suis pas sûre de compenser, si tu veux, 8 heures de crèche dans la journée. Et en fait, le lockdown a coïncidé avec l'apprentissage de la parole. Et finalement, j'ai l'impression qu'on a pu rééquilibrer un petit peu l'input de français qu'il pouvait avoir par rapport à l'anglais.
C'est clair. Bah, nous, on n'est que français. On parle que français à la maison. Et tu vois, même de sortir juste et de voir des gens, elle entendait de l'anglais. Et là, en fait, elle n'en entend plus. Bah, c'est la balance inverse, en fait. Mais je me dis que de toute manière, nous, l'anglais va compenser après. Quand elle ira à la crèche ou quand elle ira à l'école, c'est bon.
Ouais.
Ça va tout déséquilibrer. Donc, quelque part, on profite maintenant de lui.
Et toi, Charlotte, qui, du coup, tu travailles, tu fais un petit peu des after school en français sur New York. Est-ce que tu as des commentaires un peu à faire justement sur l'apprentissage des deux langues chez les enfants?
C'est des éponges. Parce que là, je vais parler pour un des élèves qu'on a à l'école, parents américains tous les deux. Il n'a pas du tout de famille francophone. Il n'entend le français qu'une heure par semaine à l'after school et il le parle, mais tellement bien, c'est impressionnant.
Alors
après, ouais, peut-être qu'il a un don pour les langues. Peut-être que s'il apprenait autre langue, ce serait pareil. Mais ouais, il le parle super bien. Donc les enfants sont des éponges. Et je pense qu'il faut pas avoir peur de se dire mon enfant ne parlera plus, parlera pas français ou ne parlera plus. Peut-être qu'il le parlera moins bien qu'un francophone, un natif. Il le parlera peut-être moins bien. Il l'écrira peut-être moins bien. Mais en tout cas, il l'aura toujours et il est baigné dedans et voilà, je pense qu'il faut pas s'inquiéter en fait.
Ouais.
Et puis maintenant, il y a plein de pistes, on connaît plein de choses, on sait comment ça fonctionne, on a plein de façons d'aider les enfants à avoir le français comme langue.
J'avoue qu'on doit être un peu des parents en carton avec Mike, mais du coup, on fait un peu des compétitions, si tu veux. C'est genre, Mike, il arrive du coup à lui demander un truc en anglais, et en fait, Félix fait exactement ce qu'on lui a demandé. Du coup, bah, moi, dès que Mike part, je fais essayer de lui demander en français, et il le fait aussi, donc je fais, oh, ok, c'est vous. Mais, dès qu'il arrive à faire un truc qu'on lui demande en anglais et pas en français, bah, c'est un peu la bataille, quoi. Excuse-nous, Félix, si un jour tu écoutes cet épisode. Dans un tout autre registre, un épisode plein de soleil et de bonne humeur, c'était celui de Marion au Vietnam. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, les filles. Une histoire qui était complètement dingue et pleine de spontanéité. Ce d'ailleurs qui avait commencé dès le début où elle avait décidé de partir en Chine en quelques jours à peine pour un VIE, je crois, de mémoire. On écoute l'extrait que tu as choisi, Charlotte.
Et donc, la deuxième étape, c'était Ho Chi Minh Ville, Saigon. Donc, là encore, lui avait commencé à réunir un petit peu quelques-uns de ses potes qui étaient prêts à investir dans un restaurant. Et il y en a un en particulier qui voyageait beaucoup à Saigon, qui allait souvent dans un restaurant tenu par une Viet Q. Alors une Viet Q, c'est une Vietnamienne qui a acquis une nationalité étrangère. Donc elle était Viet Q américaine. Donc, une Vietnamienne qui avait immigré aux États-Unis et qui était revenue, okay. En fait. Donc, bref, elle avait un restaurant américain à Saigon et elle avait très envie de prendre sa retraite, cette dame. Et, et donc, du coup, le pote de Jake, Dwayne, nous envoie au restaurant. Donc, on vient en week-end à Saigon, on vient rencontrer cette dame, Nani, et on discute avec elle. On lui parle du projet de monter un restaurant à Saigon et elle dit... Donc elle nous écoute, elle nous donne des conseils, ben, on part et puis elle nous envoie un texto, enfin on rentre à l'hôtel et elle nous envoie un texto en nous disant « Reviens me voir demain, pourquoi t'achèterais pas mon restaurant ?» Voilà, donc on est reparti le lendemain et puis le lendemain on a un petit peu posé les bases du rachat.
Ouais, non, facile quoi, le truc, ok, bah pourquoi est-ce que t'achèterais pas mon restaurant et puis c'est parti quoi, genre tu vas acheter un resto dans un pays dans lequel t'as passé un week-end et en fait tu refais ta vie là-bas quoi.
C'est ça, c'est ce que j'ai trouvé de fou dans cet épisode, quoi. C'est naturellement, positivement, genre, tout va bien. Ok, on achète un resto. Ça nous a pris 48 heures, on a les fonds, on achète. Et voilà. Et tu changes de vie complètement. Alors, c'est fou, quoi. C'est super fou.
Et c'est rigolo, en fait. Enfin, on voit quand même qu'il y a peut-être que c'est évident, en fait, mais un thème quand même qui se dégage, hein, de tous ces épisodes mis bout à bout, quoi. C'est cette prise de risque, c'est aller vraiment après ses rêves et puis, avoir ce petit grain de folie, en fait, qui soit plus ou moins réfléchi. Mais cette spontanéité, je trouve, qui est hyper inspirante. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça hyper inspirant et c'est ce qui me porte vraiment dans ce podcast, en fait. C'est découvrir des gens qui ont eu le courage, finalement, de ce que j'aurais jamais, peut-être, osé faire.
Oui, et puis je trouve qu'il y a aussi, les opportunités et le fait de des personnes qui une opportunité se présente à eux et puis la saisissent. C'est vrai que dans l'épisode de Marion, je trouve que c'est flagrant quoi. C'est une opportunité, je me pose pas 10 fois la question, je fonce quoi.
C'est clair. Ça c'est les étoiles qui s'alignent et puis tu sautes dans le vide.
Mais ça me fait penser d'ailleurs à une je crois que c'est Sandrine en Espagne dont l'épisode est passé il y a pas très très longtemps qui disait l'expatriation c'était on s'est retrouvé au bord d'une falaise mais l'avantage de s'expatrier en famille ou en couple c'est qu'on saute pas tout seul. Ou ça peut aussi d'ailleurs être un peu l'inconvénient hein, parce que ça peut être effrayant de se dire qu'on y va tous ensemble, qu'on amène toute la famille, mais c'est vrai que enfin et comparer quand même cette expatriation voilà, c'est un plongeon dans le vide quoi. On a beau et je crois que c'est d'ailleurs quelque chose qui ressort de beaucoup d'épisodes, on a beau préparer beaucoup de choses, on n'est jamais préparé à ce qu'on va découvrir en fait de l'autre côté, hein. Que ce soit de Belgique partir en France ou que ce soit de France partir en Chine, quoi. Enfin, c'est vraiment chouette.
Non, t'es jamais prêt, je pense. Tu peux te préparer tant que tu veux, tu peux lire ce que tu veux. Quand tu y es, tu prends tout dans la figure, le bon, le moins bon, et puis tu fais avec.
Exactement. En parlant d'entrepreneuriat, je le disais un petit peu, c'est vrai qu'on a reçu en fait pas mal de créateurs d'entreprises et c'est cette prise de danger de l'expatriation qui est un parallèle intéressant donc avec la création d'entreprise. Je suis pas vraiment surprise finalement que les expats soient si entreprenants et innovants. Manon, il y a un épisode qui t'avait pas mal marqué sur le thème, entre autres bien sûr, de l'entrepreneuriat. C'était, je crois, l'épisode d'Élise qui est chef d'entreprise à Los Angeles. Multi d'ailleurs chef d'entreprise hein, puisqu'elle a monté plusieurs boîtes. On écoute son extrait.
Mais je suis repartie des étoiles plein les yeux en me disant « Ok, bon maintenant, quelle est la stratégie? Il faut que je vienne vivre dans cette ville. Comment je fais ?»
Donc ouais, quelle est la stratégie? Il faut absolument que je me barre et que j'aille vivre dans cette ville. Elle parlait d'ailleurs de Los Angeles ou de New York à l'époque?
Je crois New York.
Ouais, hein, c'est là qu'elle a commencé, je crois.
Ouais, elle disait qu'elle était allée une semaine à New York pour le boulot. je me dis bon, de toute façon, je peux pas rester, hein, je suis là pour le boulot une semaine. En fait, j'ai adoré qu'elle dise quelle est la stratégie. J'adore sa façon de penser, en fait. C'est que c'est pas, on s'est tous dit, je pense, en partant en vacances dans un endroit cool, ouais. Ah, ce serait trop bien d'y habiter. Et en fait, je me suis dit, Élise, elle s'est pas dit, ça serait trop bien d'y habiter. Elle s'est dit, quelle est la stratégie? Faut que je revienne. Ouais. Elle l'a fait. Et j'ai trouvé ça génial. Et j'ai adoré l'épisode d'Élise, en fait, de A à Z, dans le sens où Élise, quand elle parle, elle est super dynamique. Et j'ai adoré le côté entrepreneur parce que c'est un truc où moi, j'adorerais le faire. J'adorerais créer ma boîte. J'adorerais, en plus, le domaine dans lequel elle l'a créé, clairement, c'est un domaine qui me fait rêver. Le voyage, j'adore ça. Et je me suis dit, purée, elle a eu trop le courage de faire un truc que moi, j'aurais pas eu le courage de me lancer. Et elle a fait un truc super. Et je l'admire beaucoup pour ça.
C'est vrai qu'elle était impressionnante, surtout que voilà, elle n'avait pas d'attache particulière aux États-Unis, à part un coup de cœur qu'elle a eu pour cette ville qui dort jamais, comme on dit à New York. Et elle est rentrée, elle a tout fait pour revenir et elle y a réussi d'ailleurs, parce que ça veut faire bientôt 10 ans donc qu'elle est aux US maintenant.
Ah ouais. Et pourtant, je te vois très bien Manon là-dedans pour rebondir à ce que tu viens de dire sur Élise.
Mais c'est vrai qu'on parlait d'entrepreneuriat de manière générale, hein. Enfin pas forcément du cas d'Élise ou de ce que tu disais Manon, mais l'entrepreneuriat aux États-Unis est quand même hyper facilité, je trouve, par rapport à la France.
Tu m'avais dit ce serait bête de pas le tenter.
Bon, après, en fait, ouais, enfin, je pense qu'en fait, tu prends des risques minimum. En fait, ce qui est chouette aux États-Unis, je trouve, c'est que tu peux tester une idée très facilement. Tu vois, bien sûr, ça veut pas dire que tu vas monter le prochain Google. Tu peux en tester fait, une idée, alors qu'en France, il te faudrait tout un cadre légal pour pouvoir le faire, qui du coup, t'as un coût, il faut t'entourer, il faut connaître les bonnes personnes, il faut avoir aussi, enfin, t'as une barrière aussi temporelle, quoi. Il faut prendre le temps de le faire. Et ici, c'est vrai que je trouve qu'on facilite beaucoup l'expérimentation, qui est du coup, vachement propice à jouer. Moi, je trouve ça un peu un terrain de jeu, quoi, l'entrepreneuriat, c'est assez chouette comme ça.
Et puis en France ou en Europe, j'ai l'impression que si tu fails, si tu n'y arrives pas, bah en fait, t'es un peu fiché, quoi. T'as pas réussi, t'es tombé, c'est mort. Ici, bah tant pis, tu tombes, tu te relèves et tu recommences et tu crées autre chose et tu te perfectionnes et il y a plus de facilité, je pense, qu'en Europe, en tout cas.
Ouais. C'est ça. J'allais justement dire pareil que Charlotte et en plus ici, si tu rates, il y a personne qui va voir ça comme un échec parce que en Europe, quand tu te plantes, t'es celui qui t'es le perdu quoi. T'as un échec sur ton CV, mais mon Dieu, comment est-ce que t'oses postuler chez nous? Alors qu'ici, ils voient vraiment pas ça comme un échec, ils voient ça comme une expérience. T'as appris des trucs, tu t'es peut-être cassé les dents, mais ils vont t'admirer pour ça en fait.
Je me suis dit, elle a fait un truc hyper cool que j'admire beaucoup. Et je trouve ça super cool qu'elle l'ait fait. Et ouais, j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle en parle de manière stratégique. C'est pas du coup, elle va au-delà du truc le rêve où le rêve c'est un peu on sait pas trop si on va l'atteindre ou pas. Elle c'est le plan stratégique quoi. C'est direct.
Ouais, elle c'est pas un rêve, c'est un objectif en fait. C'est pas j'aimerais bien, c'est je veux quoi.
Attends, ça me fait penser dans la série citation Ally McBeal, ce qu'ils disent beaucoup les Américains, c'est a goal without a deadline is a dream or a wish. Mais en gros, c'est pas un objectif si tu te dis pas pour telle date je l'aurai fait, je sais pas, dans les 5 prochaines années j'aurai monté ma boîte ou dans les 3 prochaines années j'aurai déménagé au Japon, quoi, tu vois. Mais je voulais d'ailleurs rebondir sur on parlait de la culture de l'échec. Je pense qu'en France c'est un petit peu en train d'évoluer quand même tout ça. Il y a un podcast je vais vous parler quand même d'un de mes petits podcasts chouchou qui s'appelle La Leçon, je sais pas si vous connaissez, avec Pauline Grisoni qui est une ancienne d'ailleurs journaliste pour Cosmopolitan. C'est une nana d'abord que je vous invite à suivre sur Instagram parce qu'elle est hyper rigolote, elle est vraiment hyper intéressante et elle interviewe en fait des personnalités sur leurs échecs en fait et sur qu'est-ce que t'as planté dans la vie et comment est-ce que t'as réussi à t'en dépêtrer. Et elle met un point d'honneur d'ailleurs à ne pas interviewer ces personnes-là juste après leur échec, quoi. Je crois que je sais plus quel critère elle met, mais elle s'assure, si tu veux, que les gens ont pu prendre suffisamment de recul pour pouvoir apprendre de leurs échecs. Et c'est des épisodes du coup qui sont passionnants sur qu'est-ce qu'un échec a pu va nous apporter dans notre parcours personnel, professionnel et tout ce qu'on veut. Donc, je vous le recommande. Petite parenthèse. Alors, c'est rigolo parce que je vous le disais qu'on ne s'est pas du tout concerté en sélectionnant nos épisodes, nos extraits. Mais moi aussi, c'est un extrait d'un entrepreneur que j'ai choisi. Il s'agit d'Emmanuel de l'épisode 4, qui est papa de 4 enfants qui habite à Boston, qui est d'ailleurs en train de préparer actuellement son retour en France. Il s'est expatrié 3 fois à Boston, une fois en solo en tant qu'étudiant, puis en couple, puis en famille. C'est le cofondateur et le PDG de Home Exchange, un site d'échange de maisons. On écoute son extrait.
En tout cas, moi, ce que j'espère garder, si jamais je reviens en France un jour, ça sera justement le fait de bouger le week-end et d'aller explorer, parce que la France est un pays superbe et on doit pouvoir faire autant de choses qu'en Nouvelle-Angleterre.
Saisir toutes les opportunités qu'on a, en fait. C'est vrai qu'en tant qu'expat, moi, je sais que c'est une des réflexions que je m'étais faite, c'est que j'avais l'impression d'être beaucoup moins ennuyée par le quotidien, parce que on est beaucoup plus dans un mode où on cherche à profiter un peu de chaque moment qu'on passe par ici, quoi.
Bah oui, parce qu'en fait, quand t'arrives, tout est nouveau, donc il y a l'émerveillement de la découverte. Et puis au fur et à mesure, tu passes un peu de temps, tu sais que, en tout cas, nous, c'est notre projet de famille. On va pas rester toute notre vie aux États-Unis. On a envie de réimporter les enfants en France avant qu'ils soient adolescents. Et du coup, on se dit, tiens, si jamais on a envie de faire les grands parcs américains, ou si jamais on a envie d'aller voir, je sais pas quoi, New York avec les enfants, du coup, il faut qu'on le case, il faut qu'on s'en occupe, etc. Alors que on s'est jamais dit la même chose sur aller voir, je sais pas quoi, Berlin avec les enfants quand on était à Paris, alors que, on aurait pu aussi, quoi.
Voilà, j'ai trouvé que c'était super intéressant, en fait, cette culture de « il faut saisir chaque instant ». Et je pense que peut-être le fait peut-être d'être loin, alors, j'allais dire de la maison, c'est d'ailleurs un truc que Caroline expliquait dans son épisode, je me souviens, « Where is home ?» Mais en fait, d'où on vient, quoi, de là où on a grandi, de la mère patrie, entre guillemets, on se rend compte peut-être de le côté extraordinaire peut-être des moments, et je pense qu'on les saisit tous, on les saisit un petit peu plus, et de saisir chaque opportunité d'aller découvrir tout ça. Et puis je trouvais que c'était effectivement super intéressant, en fait, de se dire quand je rentre en France, si je rentre en France, et pour le coup lui c'est ce qu'il est en train de faire, d'essayer d'exporter un peu cette mentalité. Entre mes deux expatriations aux US, j'ai passé 3 ans en France, et effectivement, en fait, pendant ces 3 ans en France, je crois que j'ai exploré beaucoup plus l'Europe et la France que je n'ai jamais fait, en fait, avant. Ce qui paraît complètement dingue. Ça veut pas dire que je foutais rien, hein. Mais je crois que quand on sait qu'on a le temps, je vais vous avouer même un truc, la honte, c'est Mike, mon mari américain, qui m'a amené au Louvre pour la première fois. Le Louvre était à quelques stations de métro de chez mes parents. Bon, après, j'ai pas grandi à Paris, hein, mais un peu la honte, quoi.
Ah, moi, je suis totalement d'accord avec toi, en fait, parce que, depuis qu'on est ici, on bouge beaucoup plus. Quand on était à Londres, on a bougé pas mal parce que c'était facile de voyager en avion et tout. On a bougé énormément quand on était à Londres. Mais alors, quand on a su qu'on partait aux US, mais alors là, on a booké des city trips. On n'était jamais là le week-end parce qu'on savait qu'on avait une deadline.
Et c'est vrai que je rejoins ce que dit Caro. Et nous, on était un peu pas plan-plan, mais en France, voilà, le petit train-train quotidien. Le week-end, on allait voir les parents dans la maison. Les barbecues chez les copains, les soirées copains et tout. Alors ici aussi on le fait, mais on a plus envie de. Alors, peut-être que c'est aussi le fait de vivre dans un appartement qui est plus petit que là où on était. On avait un très très grand appart. Là on est on a divisé par 2 notre superficie, donc on est plus l'un sur l'autre, donc on a plus envie de sortir aussi, de découvrir. Et donc du coup, on a plus envie de découvrir tous les week-ends, de sortir, de profiter un max, parce qu'on sait pas combien de temps on sera là et de ce que
l'avenir réserve, quoi.
Ouais, exactement, ouais.
Ouais. Et c'est vrai qu'il y a aussi, je pensais à ça, peut-être que, je sais pas Caroline si tu me rejoindras là-dessus, parce que tes premières expatriations ont été pas très très loin finalement de chez tes parents, enfin de là où t'as grandi. Est-ce que tu te sens peut-être plus libre en étant plus loin? Ça veut pas du tout dire que tu veux pas aller voir ta famille, mais quand t'es, enfin je sais pas, j'imagine en fait que quand t'es plus près de ta famille, tu rentres du coup, enfin. Je me souviens d'un type que j'avais rencontré, un Français, en 2007. Alors, ça remonte un petit peu lors de mon stage à Buffalo, qui me disait, le problème de l'expatriation, moi, je veux pas rentrer voir ma famille. Bon, il était un petit peu extrême. Parce qu'il dit, en fait, sinon, j'ai l'impression que ma famille possède toutes mes vacances. Parce que, du coup, tu vas pas rentrer pour 3 jours en France, hein, quand t'es aux États-Unis ou quand t'es dans beaucoup de pays. D'ailleurs, hein, ça fait une sacrée trotte. Et du coup, on est hyper content de rentrer les voir. Mais c'est vrai que du coup, on fait pas d'autres projets, quoi. Enfin, les gros voyages, quand on est limité en vacances, c'est pas évident. Et du coup, je me demande, je sais pas, quand t'es un peu plus près, est-ce que t'as l'impression d'avoir de manquer un petit peu de liberté là-dessus ou...
Je pense peut-être un petit peu, parce que t'as
c'est même pas, tu te mets une, il faut qu'on rentre toutes les X semaines, et puis t'as les anniversaires, t'as les machins, t'as les trucs, t'as les réunions de famille, t'as les mariages. Et du coup, t'as toujours l'impression, ah bah non, ce week-end-là, on peut pas aller explorer, parce que ce week-end-là, on est là-bas, ce week-end-là, on est là-bas, ce week-end-là, on est ci, ça. Et les gens, ils s'attendent à ce que tu rentres, en fait. C'est, pour eux, c'est la logique. Et par contre, les 2 heures d'Eurostar dans un sens ont l'air d'être moins chères et plus courtes que dans l'autre, tu vois.
Ouais.
Pour certaines personnes, il y a des fois, t'as l'impression que pour toi, c'est super facile de rentrer, mais alors eux, venir te voir, enfin, plutôt crever, quoi. Mais en étant à distance, mais c'est exactement ce que tu dis, c'est que parfois, t'as la famille qui se plaint parce que tu rentres qu'une fois par an et tu leur expliques que t'as que X jours de congé par an et que, ben, t'as la chance d'être aux US, t'as envie d'explorer, t'as envie d'avoir des vacances à toi. T'as pas envie forcément de passer tout ton temps chez ta famille, même si tu les adores, parce que ben du coup t'as plus de vacances quoi, à part ça. Donc et c'est vrai que t'as de l'incompréhension.
En parlant du coup de découverte, d'exploration, on parle aussi de foncer pour s'accomplir en fait hein, finalement. Caroline, tu as choisi un extrait sur le sujet. On part cette fois-ci en Europe, direction la Suède, et on écoute.
Mais de vraiment foncer, de croire en soi, de s'écouter, soi vraiment, et de se dire si je me sens pas à ma place actuellement, bah c'est peut-être que je l'ai pas encore trouvé. Donc il faut pas hésiter à s'écouter, à voyager si on en a envie, d'échanger avec d'autres gens sur leurs expériences et de se dire qu'on n'a qu'une vie tout simplement.
Et ben en fait, j'ai vraiment trouvé. Déjà, j'ai adoré cet épisode-là. Je crois qu'elle a décidé sur un coup de tête de partir en Erasmus en Italie. Elle est revenue, mais elle se sentait pas à sa place.
Elle était pas chez elle. Ouais.
Et du coup, elle est repartie en Australie. Et puis après l'Australie, je crois qu'elle est rentrée en se disant, bah voilà, maintenant ça y est, il faut se poser, il faut reprendre la vraie vie, tu vois, la vraie vie après avoir fait les voyages et tout ça. Et elle se sentait pas à sa place à Paris, elle se sentait pas à sa place dans son job, et elle s'est super remise en question. Et j'ai bien aimé la manière dont elle explique ça, la manière dont elle exprime ça. Je pense qu'il y avait, moi, je me retrouve vachement dans le côté. D'ailleurs, ça se voit, je pense, dans les deux extraits que j'ai choisis, pas celui sur le bilinguisme, mais les deux autres. Il y a vraiment un côté où tu te sens pas à ta place, tu pars. Et elle, c'était ça aussi. Elle se sentait pas à sa place dans le milieu professionnel. Elle avait des frustrations au niveau de la mentalité du travail en France, avec notamment le présentéisme. Si tu pars à 5 heures, c'est t'as pris ton après-midi. Donc, ce qu'on écoute, c'est le conseil qu'elle donne à la Aurélie d'il y a 10 ans, en fait. Et j'ai trouvé que c'était vachement frais, et la manière dont elle le disait était vraiment. J'ai vraiment bien aimé cet épisode.
Non, mais c'est vrai que d'abord c'était un épisode hyper inspirant et effectivement ça a été une histoire intéressante à découvrir parce que. En fait, une fois encore, quoi. Voilà, t'es pas là, t'es pas au bon endroit. Tu sens qu'il y a quelque chose. En fait, peut-être que s'il y a, enfin, il y a plein de leçons certainement à tirer tout ça, mais c'est peut-être d'écouter en fait sa petite voix à l'intérieur, quoi. C'est d'arrêter de lui mettre un drap dessus et lui dire ta gueule et s'écouter et finalement voilà, quand on sent qu'il y a un problème, quand on sent qu'il y a un truc qui colle pas, que ce soit au boulot, que ce soit dans notre vie de tous les jours, il y a des solutions.
Oui, c'est ça. C'est le côté où. C'est pas parce que tout le monde vit de cette manière-là que forcément c'est fait pour toi en fait. Ouais. C'est pas parce que tous tes potes en Europe ou en France, ils se plaisent bien dans leur boulot, ils aiment bien faire métro, boulot, dodo, que c'est forcément ça qui te correspond. Et par contre, je trouve que c'est difficile de prendre ça, de prendre conscience de ça, parce que quelque part, les gens vont prendre ça parfois comme un rejet de comme si toi tu
rejetais leur mode de vie quoi.
C'est ça, comme si toi tu rejetais ton éducation, ta culture, ton pays, ton mode de vie et le leur avec, et du coup ils sont là bah oui mais enfin c'est quoi le problème? Pourquoi tu nous aimes pas entre guillemets? Alors que c'est pas ça, c'est juste que ça te correspond pas. Et je trouvais que ce que je trouve super inspirant, c'est qu'elle a jamais prévu d'aller en Suède, elle s'est jamais dit mon dieu, je rêve d'aller en Suède. Elle a été en Italie, puis elle a été en Australie, puis elle a rencontré un Suédois et puis voilà, un peu comme Manon et qui a rencontré un Texan.
Et d'ailleurs, on leur souhaite plein de bonheur à Aurélie et son chéri, puisque...
Son fiancé.
Voilà, ils viennent de se fiancer, ils viennent de la demander en mariage et elle vient de découvrir qu'elle attendait un petit bébé pour je sais pas quand. Donc, félicitations, c'est super. Mmh. Ça me fait penser à mon troisième extrait qui est une interview de toi, Charlotte. Donc, du coup, j'ai appris que c'était ta première interview. J'avais pas réalisé que c'était la première interview que tu avais réalisée. Donc, de Victoire, une de mes petites sœurs. Je crois que j'ai jamais autant eu hâte d'écouter un épisode parce que j'avais pas pu assister à l'enregistrement. Ma petite sœur était à l'époque aux États-Unis. Ce n'est l'époque où on voyageait encore. Et je me souviens que je m'étais fait un peu reléguer au salon. Elle était justement ici même avec le micro à faire l'interview. Et même si, je crois qu'en fait, c'est rigolo parce que on croit qu'on connaît les histoires de nos proches. Elle a vécu au Canada. Elle vivait jusqu'au lockdown en Irlande. En fait, on ne connaît jamais en fait, vraiment l'histoire des gens aussi proches qu'on puisse être.
Je me souviens quand tu as préparé justement Victoire la place pour qu'elle puisse enregistrer l'épisode, que tu lui as dit « Mais allez, prends plaisir, have fun, lâche-toi et tout. »
Tu dis ça
Ouais, ouais. Et j'étais là derrière, oh là là, mais moi aussi, c'est l'une comme l'autre. J'étais hyper stressée de faire cet épisode et en fait, ça a été génial.
Ah, mais c'est dingue, je réalisais pas du coup que tu pouvais être stressée, je pense pas franchement que je réalisais que c'était ta première interview. Mais allez, je l'écoute, je lance.
Parce que c'est une mentalité tellement ouverte que, ouais, je sais pas, ça donne vraiment envie d'être dans un mood très positif en fait.
C'est ça, je pense qu'il y a deux façons de vivre une expatriation, soit tu prends le plus de positif possible et ça te fait grandir, soit tu n'y arrives pas, et ce qui peut tout à fait, enfin, c'est possible hein, de ne pas se sentir bien en expatriation et de vouloir rentrer, mais comme tu dis, ça permet de s'ouvrir au monde et aux autres.
Ah, je pense que dans tous les cas, il y a des moments difficiles, hein, ça c'est sûr. Oui. Même quand on garde un bon souvenir comme moi, il y a eu des moments qui ont été très durs. Mais
là, tu as quel âge, si c'est pas indiscret?
Là, j'ai 19 ans.
Donc, même pas 5 ans plus tard, tu repars en expatriation, et cette fois toute seule.
C'est ça, ouais.
Ah ouais. T'as quand même, tu as du cran, on peut le dire. Hein. Faut le faire, de partir seule à 19 ans dans une ville qu'on connaît pas. Donc chapeau.
Bah merci. Mais j'appréhendais honnêtement avant de partir. Hein. Enfin, j'avais peur de.
Ouais, bah,
de...
C'est vrai.
Parce que même, enfin, avec ma mère, du coup, on a quasiment toujours vécu que toutes les deux. Et du coup, j'appréhendais vachement de.
D'accord.
Bah, de plus vivre avec elle.
Donc ta plus grosse peur, c'était quoi? Au moins de partir.
Ouais, la solitude, je pense. Ça, c'est un truc que j'avais beaucoup de mal avec ça. Donc
la solitude de la famille, des amis, ou plus de te retrouver seule avec toi-même. Parce que il y a une différence de pas voir ses amis pendant quelques temps ou la famille, de faire un bon, tu les vois un peu moins parce que on est occupés les uns les autres, et puis de se retrouver toute seule avec avec ses propres envies aussi, et de prendre conscience de ce qu'on veut et de ce qu'on est.
Ouais, je pense que c'est un peu un mélange des deux, parce que je pense que le fait de voir mes potes, justement, ça m'empêchait parfois de me retrouver seule avec moi-même, comme tu dis, et du coup, ouais, c'était confortable, on va dire. Et donc, le fait de partir, c'est sûr que ça met un peu une claque.
Voilà. Alors, Charlotte, je te voyais faire des grands yeux, mais je sais que c'est pas facile de s'écouter, mais t'as été géniale dans cette interview. Okay. Mais merci. J'avais beaucoup aimé en fait cet extrait, cette conversation, parce que à ce moment-là, je trouve que vous avez l'air en fait d'abord toutes les deux de vous comprendre vraiment bien. Tu sais, on sent que vous avez certainement vécu des choses aussi très similaires. Alors peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est l'impression que ça donne. J'aime beaucoup la manière que vous avez de décrire la solitude de l'expatrié comme une opportunité en fait. Peut-être que effectivement on est peut-être loin de tout ce qu'on connaît, donc on sort de notre zone de confort, qu'on se soit d'ailleurs expatrié seul ou en couple ou en famille, on sort dans tous les cas de notre zone de confort. En tout cas jusqu'à preuve du contraire. Et effectivement, voilà, je trouve qu'on peut, cette solitude peut être un fardeau, quoi. Ça peut être très difficile à porter. Ça peut être aussi en fait un tremplin, quoi, une opportunité de rebondir. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, d'explorer, de se découvrir. Et peut-être justement, je crois que c'est ce que Victoire essayait d'expliquer, c'est aussi de, elle est partie à sa propre rencontre à l'étranger. Et voilà, je trouvais que c'était un bel extrait. Je sais pas ce que t'en as pensé.
Ouais, c'est ça, de se découvrir, de se comprendre et de savoir où sont ses limites et ce qu'on est capable d'accomplir ou non, en fait, par soi-même. Un peu comme disait Manon tout à l'heure, comme disait Caro, il faut foncer, en fait. Faut arriver à se trouver, à trouver sa place et la saisir, en fait. Et je pense que c'est ça, l'expatriation. C'est, des fois, c'est pas facile d'être seul, dans un endroit qui est tout neuf, de connaître personne. Et puis, en final, on apprend à se connaître, on apprend à se dépasser aussi.
Et je trouve que c'est important aussi, en fait, que French Expat, le podcast, ne montre pas que la lumière sous le feu des projecteurs. Enfin, tu vois, je veux montrer que tout va bien. Bien sûr qu'on vit des trucs extraordinaires. Et c'est un peu, si tu veux, la critique qu'on fait souvent à Instagram, quoi. C'est Instagram versus réalité. C'est aussi ça, quoi. L'expatriation, ouais, c'est génial. Ça envoie du lourd. Moi, je sais que j'ai beaucoup d'amis en France pendant très longtemps qui étaient persuadés que j'étais une grande jet-setteuse, parce que je passais ma vie dans les avions aux quatre coins du monde et tout. Mais mais non, enfin si tu veux, moi aussi j'ai des galères à la fin du mois et je pense qu'on est tous comme ça et c'est important, je crois, en fait, de voilà, de faire un petit reality check de temps en temps et de dire ce qu'il en est vraiment. Ça veut pas non plus dire que c'est une grosse galère, mais c'est que c'est la vraie vie, en fait.
Ouais, alors en parlant donc de moments qui sont plus évidents que d'autres, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu d'amour. Est-ce que vous vous souvenez, les filles, de cette semaine spéciale Saint-Valentin qui était à la fois une idée merveilleuse et à la fois une idée difficile, faut être honnête. En fait, on a eu cette idée, pour la petite histoire, tous les lundis soirs, on se fait un petit meeting d'équipe et on s'était dit, oh, ça va être génial, on va se faire une semaine Saint-Valentin, on va sortir un épisode tous les jours, ce qui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une quantité hallucinante de travail, de trouver les invités, les histoires qu'on veut raconter, de faire l'interview, de les monter, de préparer toute la communication derrière, de tout relire aussi. Et donc, c'était super génial. Mais alors, quelle galère. Vous vous en souvenez, les filles, un peu?
Moi, ce que je me souviens surtout, c'est qu'au départ, ça devait être un épisode spécial. On devait mettre des petits extraits des interviews. Vrai. Et au final, quand on a fini d'interviewer tous nos invités, on s'est retrouvé avec 5 épisodes de 50 minutes. On s'est dit, on peut pas couper, ils sont tous
c'est
super intéressants.
C'est que des histoires géniales, c'est ça.
Et donc, voilà, on a eu 5 épisodes, mais trop bien, quoi.
Ouais, ah non, des histoires d'amour de films, quoi. Enfin, franchement, toutes assez incroyables. Et alors, en tout cas, Charlotte, tu as voulu donc reparler d'un épisode ou 6 épisodes. Oui, tu as raison, parce que ça a commencé le dimanche.
6, tout
à
fait.
Tu as raison, Manon. Vous pouvez pas le voir puisque ce n'est pas un podcast vidéo, mais Manon me fait des signes. Donc en tout cas, ouais, Charlotte, tu as voulu reparler d'un épisode, l'épisode de Pauline et Emam. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est un épisode qu'on a enregistré 2 fois. Donc encore un grand merci à Pauline pour sa patience et sa gentillesse. Parce que c'est quoi? Je crois que c'est moi qui ai fait la première interview et il y a eu un problème technique au niveau de l'enregistrement. On s'en est rendu compte au moment du montage et elle a été super sympa puisque donc on a refait l'interview avec Charlotte pour que la conversation soit naturelle et que voilà, on fait pas semblant hein, dans ce podcast.
Et d'ailleurs, c'était la même chose pour celui d'Aurélie dont parlait Caroline tout à l'heure, en fait.
C'est vrai, c'est toi qui avais fait le premier et c'est moi qui ai fait le deuxième avec elle. C'est vrai, c'est dingue. Bon allez, on écoute Pauline.
Donc j'arrive aux Philippines, à Mani exactement, et je suis logée en couchsurfing par une Vietnamienne qui m'accueille dans son petit appartement, voilà, dans un quartier de Manille. Yeah. Donc voilà, j'atterris chez elle et puis je découvre que je ne suis pas seule à être en couchsurfing chez cette Vietnamienne. Il y a un Égyptien avec moi.
D'accord.
Donc voilà, je rencontre Imam, voilà, qui loge aussi chez cette jeune femme, et bah voilà, on se découvre tous les trois, on discute, etc. Et puis voilà, en discutant, on se rend compte qu'on va faire à peu près le même parcours aux Philippines, donc on se dit bah pourquoi pas continuer à voyager un peu ensemble, quoi. Ça serait bête de juste se suivre et puis voilà de pas être ensemble, donc.
Et là, suspense, qu'est-ce qui se passe?
Et là, suspense, eh ben oui, il faut écouter l'épisode pour savoir la suite. Non, ce qui se passe, c'est c'est qu'Imam et Pauline, donc, se découvrent chez cette femme-là, se rendent compte qu'ils vont faire les 3 semaines suivantes le même trajet, le même parcours, et que, bah, ce serait dommage de le faire chacun de leur côté, puisqu'ils vont se retrouver après à chaque étape, en fait. Et donc, du coup, ils décident de faire la suite du voyage ensemble et au fur et à mesure de...
Ce que tu veux dire, c'est qu'il y a eu un petit coup de foudre dans l'air dès le premier jour aussi.
Oui, enfin, ils sont bien plus, mais en fait, c'est ça, c'est à force de voyager ensemble, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que... C'est pas juste amical et juste, voilà. Et au final, voilà, 3 semaines plus tard, ils sont ensemble. 4 ans plus tard, il me semble, ils sont toujours ensemble et ils vivent le parfait amour. Bah oui, ouais. Et voilà, ils sont rentrés en Égypte pour le moment.
Là, c'est dingue. C'est vrai que c'était une histoire assez incroyable, parce que pour la petite histoire, et je vous encourage à aller découvrir tous les épisodes, mais cette histoire dont on parle, Pauline, en fait, avait décidé aussi, elle avait préparé vraiment son projet, quoi, depuis plusieurs années. Je crois qu'elle était dans le développement durable pour une municipalité en France. Elle avait énormément de vacances et voyageait beaucoup, et elle avait, elle a construit son projet. Je vais tout plaquer pour faire le tour du monde pendant 1 an. Et en fait, ce qui est complètement dingue, même pas pendant 1 an, d'ailleurs, je suis pas sûre qu'elle avait une date de fin en tête, c'est que le premier jour, quoi. Le premier jour, finalement, elle a rencontré l'amour de sa vie. C'est complètement fou.
Ah, c'est ça. C'était tout au début où elle a... elle a commencé son tour du monde qu'elle rencontre Imam. Et en plus, ce tour du monde, elle avait dit, je veux le faire toute seule. C'est là, cette fois, c'est pas un voyage entre amis. C'est,
j'attends pas
c'est
les
moi,
autres.
C'est me, voilà, c'est me découvrir moi-même, encore une fois.
Et finalement, elle n'a pas fini son tour du monde.
Non.
Moi, je la connaissais pas avant. Je l'ai découverte grâce à l'épisode et j'ai trouvé ses photos complètement dingues, quoi.
C'est clair.
Ça fait rêver. Enfin, là, évidemment, elle est coincée en Égypte, il me semble.
Ils ont fait le choix de rentrer dans la famille des mêmes, je crois.
Oui, mais je crois qu'ils peuvent pas repartir en France encore.
D'accord.
Donc, je crois qu'ils sont encore en Égypte. Mais c'est super intéressant ce qu'elle partage. Et ben, ça fait partie des dizaines de contes que j'ai découvert grâce au podcast.
On a découvert aussi comme ça des histoires d'amour complètement dingues. Il y a des trucs comme ça qui t'ont marqué particulièrement, Manon?
De cette semaine de Saint-Valentin, moi, j'avais interviewé Anthony qui, niveau rencontre...
Oh, c'était dingue, son histoire.
Ouais, bah, c'est dingue.
Tu nous la racontes vite fait, leur rencontre. Elle était complètement incroyable. Dans le Grand Canyon, hein, c'est ça?
Il était au Grand Canyon. Il voyageait seul, il me semble. Alors, des fois, je mélange un peu maintenant toutes les histoires. Il y en a tellement. Mais il voyageait seul et il avait pris un grand drapeau américain, je crois, pour se prendre en photo ou quelque chose comme ça. Et une étrangère, voilà, quelqu'un qu'il connaissait pas, l'a pris en photo et ensuite l'a interpellé après en lui disant, elle était avec un groupe scolaire, elle, il me semble.
Je crois qu'elle était instite ou un truc comme ça.
Ouais, elle est instite ou quelque chose comme ça. Et elle lui a dit, écoute, je t'ai pris en photo, c'était très joli où t'étais avec le drapeau. Je t'ai pris en photo et voilà, si tu veux la photo, je te la donne. Et il me semble qu'ils ont pas plus échangé que ça en fait. La première fois.
S'ils se sont échangés leur compte Facebook, il y a pas eu un truc comme ça. Il est parti en courant parce qu'il s'est dit merde, j'ai pas donné le bon compte ou je sais pas quoi.
Ouais, c'est ça. Anthony, il est surveillant pénitentiaire et du coup, sur son compte Facebook, il a un autre nom, il me semble. Et il s'est rendu compte après qu'il lui avait pas donné le bon nom et c'est drôle de se dire que en fait, sur le coup, il s'était parlé deux secondes et il m'avait dit, c'était un stress, mais pour lui, c'était important. Il a il a changé quand même son nom Facebook pour être sûr qu'elle le trouve. Et j'avais trouvé ça complètement fou.
C'est clair, c'est clair. C'est des histoires qui font rêver. Et alors cette photo d'ailleurs en particulier, il nous l'avait donnée hein, pour l'épisode. Si vous remontez dans les vignettes d'épisodes, ce sont sur le site frenchexpatpodcast.com ou sur Insta par exemple. Et on le voit en fait, donc il est au bord du Grand Canyon, enfin au bord, sur les côtés du Grand Canyon. Promis, il n'était pas un des champions qui était vraiment tout au bord. Et avec son drapeau américain en fait. Ouais, sur le dos, hein, c'est ça qui est. La photo est magnifique, hein. Enfin, franchement, la photo est vraiment très très belle. Donc c'est une sacrément belle histoire. Ok. Et alors justement, toi, Manon, c'est rigolo parce que du coup c'était l'histoire d'Anthony, mais là tu as choisi un autre Anthony pour terminer cet épisode spécial.
On en a des hommes au final. On en a même avec le prénom.
C'est clair, non mais c'est clair. Je me souviens d'ailleurs de cet épisode avec Anthony. Anthony, c'est rigolo parce que je vous dis que le podcast a été lancé le 7 octobre, mais en fait j'avais fait une petite erreur de manip puisque le premier épisode est sorti une première fois le 6 octobre. Et je ne sais pas comment il nous a découvert, d'ailleurs il faudrait que je lui demande Anthony, mais il a écouté l'épisode à ce moment-là. Et honnêtement, j'ai fait tellement d'édits pendant le mois suivant sur les premiers, c'est parce qu'il y avait tellement de problèmes techniques, de micro, de gens qui se coupaient. Il y avait pas mal de problèmes. Donc le mec était comme sacrément indulgent parce qu'il a écouté la première version et il a tout de suite envoyé un message genre j'ai envie de participer, j'ai des histoires sympas à vous raconter. Et finalement on s'est parlé très tardivement parce que je crois que c'était en janvier. J'avais une crève de malade, je crois que je suis en apnée pendant toute l'interview, c'est assez catastrophique, mais c'est une histoire assez géniale, on écoute.
J'ai même pas signé de contrat, c'était le lendemain, j'étais dans un avion quoi. C'était dingue. Et surtout d'être payé à faire l'avion, moi je pensais même pas que c'était possible, je l'avais jamais imaginé en France.
Payé à vivre de ta passion, quoi.
Ouais, exactement, ouais. C'est-à-dire que le matin, je me réveillais à peut-être 5h du matin, parfois pour voler de 7h du matin à 5h de l'après-midi, non-stop, sans arrêt, et moi ça m'allait très bien, quoi.
Pour le plaisir, quoi. Ouais, génial.
Pour le plaisir.
En parlant de talk de langage, je passe ma vie à dire que c'est génial, excusez-moi.
Quand c'est génial,
oui, c'est ça. J'ai pas d'autres mots. Mais ouais non pour le contexte effectivement en fait Anthony ne fait pas l'avion comme on fait avec nos enfants mais il est pilote d'avion il est pilote de ligne. Pourquoi t'as choisi cet extrait Manon?
Je crois qu'on a on a une continuité dans les extraits que j'ai choisis, la réalisation des rêves.
Et j'ai bien aimé, en fait, j'ai beaucoup aimé dans l'histoire d'Anthony. Il a vécu un peu cette même période que moi j'ai vécu quand tu te maries avec un Américain, que tu arrives sur le sol américain ou que t'as pas le droit de travailler. Et en fait, moi j'ai appris à broder et Anthony a décidé de devenir pilote.
C'est vrai.
Donc bon, et j'ai trouvé ça ouf. Je me suis dit bon, j'ai eu un peu le même cheminement de pensée que lui, où je me suis dit bon bah on va essayer d'utiliser ce temps pour faire quelque chose, enfin d'utile, apprendre, gagner des nouvelles compétences. Bon voilà, comme je disais, moi j'ai appris à faire de la broderie et Anthony a décidé bon bah je vais arrêter mon rêve et devenir pilote. Et j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. Alors qu'en plus tu te dis Anthony avait quand même déjà un super job, il était ingénieur, il avait fait énormément d'études pour arriver à ce job. Il s'est quand même dit bah en fait non, c'est ma passion est ailleurs et du coup j'ai beaucoup aimé le fait que cette période qui est limite une période de carence dont beaucoup souffre, hein, clairement. On est beaucoup à se dire, ah, ben, je sers à rien, je travaille pas. On se définit beaucoup par le travail, en plus, dans notre société. Mmh. Et du coup, lui a décidé que, bah, non, en fait, ça va pas être une période inutile. Je vais m'en servir pour faire quelque chose, quoi.
Ouais. Et puis, ouais, pour accomplir carrément ses rêves. Donc, c'est clair que c'est impressionnant. Et c'est rigolo aussi, comment il parle. On en a parlé peut-être une ou deux fois dans certains épisodes. Mais, le monde du travail américain où, voilà, en gros, il a passé un coup de fil un lundi en disant, coucou, j'ai eu mon autorisation de travail. Vous cherchez, un instructeur, donc, de pilotage. Ils ont dit ouais. Et le lendemain, le mec était dans un avion en train de donner des cours, quoi. Enfin, et c'est vrai qu'on signe pas de contrat. Ça se fait presque, bah, je veux dire, presque à l'enseigne, on se serre la main et c'est bon, quoi.
Ouais, et ce que j'ai bien aimé, c'est que aussi dans son épisode, il décrit bien, il dit au début, un petit peu avant cet extrait, il parle du fait, ouais, cette année, à pas pouvoir travailler, etc. J'ai commencé un peu à déprimer, ça me faisait bizarre de vivre au crochet de ma femme, entre guillemets, etc. Et j'ai bien aimé, en fait, me dire, tu te rends compte que s'il avait pas eu cette année où il s'était dit je vis au crochet de ma femme, je peux pas travailler, il serait peut-être jamais devenu pilote.
Il aurait jamais réalisé son rêve.
Son job d'ingénieur toute sa vie.
C'est une excellente perspective, j'ai pas pensé à ça, c'est clair, c'est dingue en fait. C'est dingue.
Ouais. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans son histoire.
Donc toi, si tu t'étais pas mariée, tu aurais jamais lancé la broderie. Tu n'aurais jamais reçu ma petite trousse French as fuck.
Bah oui, tu vois.
Donc, il y a du favoritisme ici. Hein. On a fait notre trousse, nous, avec Caro.
C'était un concours que j'ai gagné. Oui, madame. Ouais. Et que c'est dans le sac de crèche de Félix dans lequel il envoie ses médicaments à la crèche French as fuck. Je peux te dire qu'il est très, très classe.
Je peux en faire pour toute l'équipe. Il n'y a pas de souci.
J'y compte bien. Hein.
Moi aussi. Hein.
Benjamin, je note.
Voilà. Et puis pour un de nos invités.
Oh, ok. J'ai du coup le carnet de commandes commence à se remplir là.
Ouais, c'est ça. Tu vois, regarde, ça suffit de. Je ne pense pas que l'épisode durera 2 heures, mais de 2 heures d'enregistrement quand même, pour voilà remplir ton carnet de commandes. Les filles, je vous dis un immense merci. C'était super sympa, franchement, de retracer un peu l'histoire du podcast, de se replonger dans les histoires de nos invités. Bien sûr, on peut pas passer tout le monde, mais c'est vraiment avec grand plaisir qu'on redécouvre les parcours de chacun et comment on a évolué. J'aimerais bien faire un petit bilan perso.
D'ailleurs, toi, Anne Fleur, qu'est-ce qui t'a apporté ce podcast cette année?
Écoute, beaucoup, il m'a beaucoup apporté. Pas du temps, ça c'est sûr, mais je suis très curieuse et je suis très bavarde, pour ceux qui s'en étaient pas encore rendu compte. Je suis passionnée de voyage, j'avais d'ailleurs créé une boîte dans ce domaine-là. Enfin, j'ai eu l'idée en tout cas de créer ce podcast, c'était vraiment parce que je voulais d'abord montrer les contrastes entre les parcours. On entend souvent, tu sais, dire oh, les expats français, ils sont tous pareils. Ce podcast, c'est la preuve que absolument pas. Il y a des parcours tous aussi riches les uns que les autres, avec des déclenchements très différents, avec des rêves très différents, avec des exécutions très différentes, avec des destinations très différentes. Et je trouve ça hyper riche et hyper intéressant. Et je suis en fait hyper reconnaissante au podcast, à la communauté qui nous écoute et aux gens qu'on invite, à vous aussi bien sûr. Mais je trouve qu'en fait, tous les gens qu'on a interviewés, c'est des gens avec qui je serais vraiment super ravie de me retrouver, je sais pas, la prochaine fois quand ils rouvriront les frontières et qu'on pourra peut-être rentrer faire un tour en France, bah, je serais hyper contente, je sais pas, de faire un petit apéro des invités à Paris un jour où on rentre, j'en sais rien, en vacances ou un truc comme ça. Bah, c'est des gens vraiment que j'ai envie de rencontrer, quoi, des histoires qui m'ont marqué et voilà. Et puis voilà, d'un point de vue personnel, je vous l'ai déjà dit, je m'en suis jamais cachée, j'ai toujours beaucoup aimé la radio. C'est un peu pour ça que j'ai choisi ce format et peut-être pas celui d'un blog ou d'autres choses pour raconter ces histoires. J'ai créé un autre podcast entre-temps perso, j'en ai créé pour le pro aussi, et je me suis découverte en fait vraiment une passion pour ce média-là que je consomme en tant qu'auditrice et que j'aime créer. Donc je suis vraiment super contente. Pour moi, c'est une année un peu fatigante, on va être honnête, mais super ouais, super intéressante sur tous les points. Et je vous le dis, hein, franchement, c'est évident, mais j'espère que c'est très clair pour vous. Le podcast, il en serait clairement pas là si on n'avait pas toute une équipe.
Bah moi, je suis arrivée bien en cours de route, hein, donc j'ai raté le début de l'aventure, mais ça m'a apporté plein de découvertes en tant qu'auditrice au début, des envies de voyage de malade. Alors là, franchement, je vous remercie pas. Plein de nouveaux comptes Insta à suivre, plein de nouveaux contacts, plein de nouvelles perspectives, de nouvelles... ouais, de nouvelles histoires et je sais pas, moi j'adore écouter et lire des histoires. Toi t'aimes bien les raconter, moi j'aime bien les lire. Et j'ai vraiment adoré découvrir des tranches de vie de gens comme ça. Et je sais pas, ça aussi tu te sens moins seule quelque part. Enfin, tu te sens pas seule non plus, mais tu te sens moins seule dans les galères que t'as pu traverser, même si tu connais des amis qui sont dans la même situation que toi. Il n'y a jamais un moment où tu te poses pendant une heure et où tu leur demandes, allez, maintenant, tu me racontes toute ta vie depuis le moment où tu as décidé de partir à maintenant, tu vois. Ces conversations-là, tu les as jamais. Donc, même en étant en contact avec plein d'invités qu'on a eus, bah, il y a plein de choses que je savais pas de leurs histoires et c'était vraiment, vraiment cool.
Non, c'est clair. Je pense qu'une année aussi, voilà, sous le signe de la découverte pour toi.
Alors, bah, comme vous deux, découvrir des nouvelles histoires, découvrir des nouveaux contes, des nouvelles personnes, voilà, tout ça, ça a été génial cette année. Et puis en plus, d'un point de vue personnel, ça m'a appris que j'étais capable de prendre la parole au micro. Je me suis lancée, j'ai osé, et en fait, ça, c'est hyper valorisant. Ouais, je suis capable. J'avais super peur de prendre le micro, j'avais peur de faire les montages, de pas arriver à faire
c'est
un...
C'est clair que t'as appris aussi les montages, t'as appris tout ouais, ça en...
C'est ça,
temps.
Et puis j'avais peur, voilà, je me disais, mais comment je vais faire pour apporter quelque chose à l'invité, de lui donner envie de raconter son histoire, comment lui donner envie de nous
de se livrer
ce qu'il... Ouais, de se livrer. Ça a été une super année pour ça, ça a été révélateur.
Révélation. Ouais, c'est génial.
Alors moi, j'ai beaucoup aimé... Enfin, l'aspect travail d'équipe et en fait le challenge que ça a représenté pour moi, le moment où j'ai intégré l'équipe, je travaillais pas, je venais d'avoir ma green card, on venait d'arriver à Houston, enfin c'était tout nouveau pour moi et ça faisait quasiment 2 ans que j'avais pas travaillé. Ça m'a vraiment fait reprendre confiance en moi par rapport à, enfin, du coup, c'est vrai que c'est totalement, enfin, je partage bien évidemment la vie sur les histoires, etc. Mais moi, d'un point de vue personnel, ça m'a vraiment redonné confiance en moi, par rapport à cette période quand on parlait avec Anthony où tu peux pas travailler quand tu arrives aux États-Unis, etc. Et où je me sentais un peu inutile, j'avais l'impression d'avoir oublié tout ce que je savais faire. Et ça m'a vraiment permis de remonter sur le cheval, on va dire. Ça se dit en français ? Non, ça se dit pas.
Get horse. Back.
bon, bref. Ça m'a vraiment
aussi
aidé
de te remettre en selle, de se remettre en selle,
française. Se remettre en selle. Donc, j'ai vraiment apprécié le travail d'équipe et en plus la collaboration à distance. J'ai trouvé ça assez sympa parce que, en fait, aucune de nous, on s'est jamais rencontrées en vrai.
Eh ouais, c'est clair.
C'est clair. Incroyable.
C'est clair.
Et même les invités, enfin, beaucoup avec qui, bon, que je connaissais avant via les réseaux ou que j'ai appris à découvrir avec le podcast et ensuite les réseaux. Ça me fait rire. Je dis souvent à mon mari, ah bah oui, j'ai une copine à Louisville, j'ai une copine à Orlando et tout. Et puis, on me dit, mais qu'est-ce que t'as, comment t'as rencontré toutes ces copines? Mais en fait, je les ai jamais rencontrées. Mais il y a un vrai réseau de solidarité au sein de la communauté expat.
Ouais.
Et franchement, je pense que oui, on est des copains, copines et on prend soin les uns des autres.
Là, je suis totalement d'accord. Clair. Et j'ai le même problème que toi. Je suis là, ouais, j'ai une copine là-bas. Mais tu la connais comment?
Bah, c'est compliqué.
C'est ça, ouais. C'est pas une vraie copine.
Bah, surtout que j'ai l'impression que nos hommes, pour en tout cas je parle pour le mien, sont pas du tout réseau, donc enfin
pareil.
Ouais, c'est ça. Enfin, le mien il y est, mais tu vois, il poste, il échange pas en fait. Et
en fait, c'est vrai que je crois que mon compte Instagram, je crois que c'est plus des gens que je n'ai jamais rencontrés que des gens que j'ai rencontrés.
Pareil.
Donc, je crois que mes amis, c'est texto, FaceTime et tout, ou en personne, ouais. Quoi, quand on peut. Ouais. Mais c'est vrai qu'Instagram, en fait, rétrospectivement, depuis quelques années, c'est devenu que
mes amis de France parfois se moquent de moi. Ah bah t'es à fond sur Instagram et tout, mais
pareil.
Tellement de copains copines grâce à ça.
C'est ça.
Enfin d'ailleurs toutes mes copines de Houston je les ai rencontrées grâce au réseau donc.
Ouais. Je pense. Pareil ici en Californie toutes mes copines ici c'est Instagram quoi.
Ça c'est fou quoi. On dénigre vachement les réseaux mais ça a quand même des vertus, on parlait de l'isolation, des vertus assez impressionnantes.
Et moi, je voudrais rebondir à ce que tu disais, Manon. Pareil, en fait, le podcast arrivait à une période, ça faisait juste un an qu'on était là. Je savais pas trop où j'en étais. J'avais toujours pas mon permis de travail, donc je ne pouvais pas travailler. Ça faisait plus de 6 mois qu'il était en attente, en fait. Et donc, ouais, à quoi je sers en fait de voir mon mari partir tous les matins travailler, toi tu restes à la maison, même si t'as les copines qui sont là, bah tout le monde a sa vie, elles travaillaient toutes. Moi je faisais rien en fait de mes journées, j'avais l'impression de rien faire en fait.
Non mais c'est vrai. Et puis les sur les outils là dont tu parlais aussi, Manon, je trouve que c'est intéressant. C'est vrai qu'on a réussi quand même à avoir un système qui fonctionne pas trop mal. Alors, vous connaissiez Slack avant le début du
pas
podcast
du tout.
Tu connaissais
moi,
peut-être Caro?
Moi je connaissais de nom. Bah ouais. Moi j'utilisais Hangouts avant, mais au final c'est tous des cousins hein, dans un sens.
Ouais.
Mais je connaissais pas Slack. Je sais que Nico l'utilise au boulot, mais ouais. J'avais jamais utilisé Slack.
Ouais, donc on a un peu tout le podcast d'organiser là-dessus. D'ailleurs moi les deux podcasts sont complètement là-dessus, par épisode, par thème et tout, et ça nous permet quand même de bien collaborer, je trouve, sans se pourrir les boîtes de mail, en fait, parce que ça devient vite ingérable, je trouve, de recevoir un mail dès qu'on a une question, ou les textos, au fait d'avoir tout au même endroit. Enfin voilà, c'était la petite page promo. Promis, Slack ne sponsorise pas, d'ailleurs ils seraient les bienvenus, mais ne sponsorise pas le podcast.
Mais ouais, même la cohésion de l'équipe est vraiment top, hein. Je dis pas ça parce qu'on est enregistré et que je suis payée, mais la cohésion de l'équipe est vraiment
parce que pour
cool.
Le coup je ne paye pas, on est dû avoir un malentendu. T'as du mal à lire mon texto. Hein.
Mais on s'est jamais rencontrés, aucune. Et pourtant, il y a une super cohésion. Il y a les petites vannes où tu t'apprends vraiment à connaître les autres. Et au final, bah oui, tu t'es jamais rencontré. C'est un projet collaboratif et c'est vraiment, moi, c'est vraiment cool de faire partie de ça.
Bon, bah écoutez, les filles. Je vous dis un immense merci. C'était super cool de faire toute cette saison avec vous, de retracer, voilà, je suis peut-être un petit peu nostalgique, de retracer tout ce qu'on a fait sur ces 52 épisodes et de finir ce 52e épisode toutes les quatre. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Reposez-vous bien parce que on a une super saison qui nous attend. Et puis, à bientôt.
À bientôt.
Bel été à vous. À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de ce tout dernier épisode de cette saison. C'est la fin de ce 52e épisode. Merci infiniment à vous qui avez suivi tout cet épisode ainsi que l'intégralité de la saison de French Expat, le podcast. Merci pour votre fidélité, merci pour vos retours et merci pour votre soutien. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous à la créer, à la produire. Si vous voulez continuer à suivre les coulisses du podcast, rendez-vous sur frenchexpatpodcast.com, notre site internet sur lequel vous retrouverez tous les liens vers toutes les plateformes d'écoute, tous les épisodes. Qui sont d'ailleurs classés par destination et par thème, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous pouvez aussi continuer à suivre l'aventure, notamment pendant l'été entre les deux saisons sur les réseaux sociaux. On est très active sur Instagram entre autres, mais aussi sur LinkedIn, Facebook et sur Mapster. Si vous avez la chance de pouvoir quand même vous balader malgré la situation actuelle pendant l'été, n'hésitez pas à retrouver notre compte Mapster sur lequel on référence toutes les bonnes adresses de nos invités, donc depuis ces 52 épisodes. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent été. J'ai hâte de vous retrouver à la rentrée et portez-vous bien.
And you can't forget from sunrise to sunset.
Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning. French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.